CFM. CFM. Ta voix. Rock. CFM.
Alors c'est l'indicatif de table ovale sans ellipse, puisque tous les mois vous avez l'habitude que je reçoive, votre serviteur Claude Devezin, que je reçoive des représentants locaux des partis politiques nationaux que nous invitons à débattre dans l'émission table ovale sans ellipse. Sans ellipse parce que j'espère que mes interlocuteurs n'ont pas recours à cette forme d'expression, et puis parce que la table est censée être ovale, ça veut dire qu'elle n'est ni ronde ni carrée. Et cette fois-ci c'est tout à fait exceptionnel, puisque à la place de la demi-douzaine d'interlocuteurs habituels, ce soir j'en ai 9. J'aurais pu en avoir 24, ça aurait été encore plus difficile. Et ces 9 sont tous des candidats à l'élection européenne. Ils sont membres d'une liste qui est candidate à l'élection au Parlement européen. Et dans 15 jours, ça sera un rythme un peu plus rapproché que d'habitude, mais ce sera la dernière de la saison, nous recevrons alors nos interlocuteurs habituels qui tireront un petit peu les conclusions du résultat de sélection et de l'installation de ce Parlement. Parce que le but, c'est quand même d'avoir un Parlement européen. Alors justement, un Parlement s'est constitué, s'est organisé en groupes politiques. Et je dois dire que c'est des fois un petit peu compliqué, les groupes, et sur cette élection particulièrement, on a un peu de mal des fois à distinguer qui est qui avec le nom des listes, le nom des partis, le nom du parti européen, le nom du groupe européen. Donc ça va être ma première question pour savoir un petit peu qui est qui, ça va être de savoir à quel groupe, lorsque vous serez élu, car vous serez tous élus bien entendu, ou presque, lorsque vous serez élu, à quel groupe au Parlement européen vous irez adhérer, et quelle est un petit peu l'histoire de ce groupe et pourquoi celui-là et pas un autre. Et en même temps, ben, je compte sur les uns et les autres pour rebondir, parce que les groupes au Parlement européen, ils ont une histoire, ils ont une composition, ils ont des oppositions internes, ils ont des alliances, et tout ça ne va pas manquer de susciter vos réactions. Alors, normalement, nous aurions dû avoir un représentant de l'UMP, je ne désespère pas de le voir arriver. Nous avons en tous les cas un représentant du Parti Socialiste, Pierre Pantanella, quelqu'un de la liste Europe Écologie, Marie-Claude Carlin, quelqu'un du Mouvement Démocrate, Démocrate pour l'Europe, Émilie Tessèdre-Julien, quelqu'un du Front de Gauche, je vous rappelle que le Front de Gauche, c'est quelque chose lancé par M. Mélenchon et par le Parti Communiste, et c'est Guillaume Sérieux, Libertas, c'est-à-dire CPNT et le Mouvement pour la France, c'est Marie-Francine de Pierrepont, le Front National, c'est M. Serge Larose, Lutte Ouvrière, Sandra Torremocha, et NPA, le nouveau parti anticapitaliste, capitaliste, Maxime Gaillac. Alors, la question de l'appartenance à un groupe, je la poserai, j'ai regardé quels étaient les groupes du Parlement européen, hein, on a et j'ai remarqué qu'il y avait deux orphelins, enfin du moins moi je n'ai pas su leur mettre de filiation, c'était le groupe pour l'Europe des Nations et le groupe indépendant et démocratie. Et j'ai remarqué qu'il y avait parmi les présents quatre listes qui semblaient être orphelines, du moins compte tenu de l'idée que je me fais du groupe qu'ils choisiront, c'est Libertas, le Front National, Lutte Ouvrière et le Nouveau Parti Anticapitaliste. Alors, par exemple, le Nouveau Parti Anticapitaliste, il adhérera à quel groupe quand il sera au Parlement européen ?
Eh bien, bonjour, Maxime Gaillac. Donc, le Nouveau Parti Anticapitaliste, on espère effectivement avoir des députés sur les 7 listes qu'on a présentées au niveau national. On est en campagne européenne, donc on est en campagne avec tous les partis anticapitalistes d'Europe. Donc c'est vrai que nous, on espère pouvoir avoir assez d'élus pour créer un groupe au Parlement européen, un groupe composé de députés des nombreux partis anticapitalistes européens qui se présentent à cette élection.
Nombreux, ça veut dire qu'il y en a un dans les 27 pays ?
Nombreux, c'est-à-dire ?
Mais les partis anticapitalistes.
Oui, il y a le Bloc de Gauche au Portugal, il y a le PPP en Pologne, il y a en Belgique, le NPA en France.
Bien. Alors, parmi les autres orphelins, j'ai noté Lutte Ouvrière. Alors, Lutte Ouvrière, si vous étiez élu, vous adhérez à quel groupe du Parlement européen ?
Bonsoir. Alors d'abord, je tiens à dire qu'on a déjà eu des élus au Parlement européen, dont Arlette Laguillé, qui a été élue en 99 avec deux autres camarades et puis deux autres camarades ce qui était la LCR à l'époque. Et donc, ils avaient siégé dans le groupe de députés européens qui rassemblait les partis communistes. Parce que moi, je tiens quand même à dire, c'est une question assez précise qui est posée, mais qui concerne l'après-élection. Je crois que l'élection n'est pas faite. Et ce qui serait intéressant de discuter ce soir, c'est surtout quel intérêt d'avoir des députés européens et pour défendre quelle politique. Après, effectivement, le fonctionnement du Parlement européen est loin d'être démocratique, puisque déjà, effectivement, il faut faire partie d'un groupe pour avoir le droit de prendre la parole dans ce Parlement européen, ce qui me semble déjà pas très démocratique. Et surtout, donc, je crois que ce qu'il faut mettre en avant et... ce qui peut permettre à beaucoup de travailleurs, de salariés qui peut-être pensent encore s'abstenir aujourd'hui, c'est que cette campagne pour les élections européennes se déroule en pleine crise sociale. Et je crois qu'il faut profiter de l'occasion où l'ensemble de la population, et notamment les classes populaires, sont appelées à se prononcer, et bien qu'elles se saisissent de cette occasion pour se prononcer contre ce que moi j'appelle une dictature des grands groupes industriels et financiers qui sévissent au niveau de l'Europe.
Qui comptez-vous rejoindre dans ce groupe ? Parmi les autres Européens.
Mais on verra bien. Si vous voulez, moi, je fais aujourd'hui la campagne et on verra bien en fonction des résultats, en fonction des élus. Voilà.
Alors, l'autre question, c'est... j'avais cru comprendre, donc si je comprends bien, le groupe vers lequel irait la lutte ouvrière, c'est le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne. Et je m'étais dit, peut-être à tort, que le Front de Gauche rejoindrait ce groupe, Monsieur Sériès.
Oui, merci. Simplement, permettez-moi de vous remercier d'abord la radio d'organiser ce débat, parce que depuis 2 mois qu'on est en campagne, il faut bien dire qu'on a l'impression que beaucoup des listes refusent d'avoir ce débat argumenté sur les enjeux européens, qui sont pourtant très importants. Au Parlement européen, c'est assez simple. En tout cas, pour la gauche, il n'y a qu'un groupe de gauche indépendant au Parlement européen. C'est pourquoi je dis, avec la liste conduite par Jean-Luc Mélenchon, que le vote Front de Gauche, c'est le seul vote utile à gauche. Parce que c'est la gauche utile au Parlement européen, qui va siéger dans le groupe de la gauche unie au Parlement européen, qui est composé des partis communistes, de Die Linke, de partis portugais, de partis antilibéraux, et donc des députés nouvellement élus du Front de Gauche. Pourquoi je dis que c'est le seul vote utile à gauche ? Parce que c'est le seul groupe à gauche qui s'est opposé, par exemple, et c'est pas une petite question, à la ratification par les parlementaires européens du traité de Lisbonne contre l'avis, en particulier du peuple français, mais aussi du peuple hollandais, ou encore récemment du peuple irlandais. C'est les seuls députés de gauche au Parlement européen qui se sont opposés à ce formidable déni de démocratie que représente le vote de ces députés européens sortants. Dans le Sud-Ouest, les 18 départements avaient voté non à 60% en 2005. Tenez-vous bien, mes chers auditeurs, si vous ne le savez pas, tous les députés européens sortants de cette circonscription Sud-Ouest ont voté oui au même texte, 3 ans après. C'est un formidable déni de démocratie. Donc, votez pour la gauche utile, celle qui incarne une opposition à la droite au Parlement européen et qui refuse la cogestion, qui refuse de voter.
Donc, ce groupe, lui, n'avait pas voté et le seul à ne pas avoir voté le
à gauche,
traité
oui.
de Lisbonne.
Oui, à gauche, oui. Et y compris, par exemple, au Parlement européen, par exemple, sur la libéralisation de la poste ou de l'énergie, on assiste à une cogestion entre la droite et une grande partie de la gauche.
On va voir, j'espère bien que vous allez débattre sur ces groupes,
groupe,
et si vous le faites
le groupe
pas,
de la gauche indépendante qui a par exemple permis de refuser le vote de la directive Bolkestein au Parlement européen, ou la directive visant à permettre un travail jusqu'à 65 heures par semaine. Voilà ce qu'a déjà réussi à faire ce groupe que l'on va rejoindre après les élections.
Alors, dans les autres orphelins, du moins de mon point de vue, il y a le Front National. Alors lui, il va vers quel groupe ?
Bah écoutez, on a appartenu à des groupes qui ont changé de nom, mais vous parliez tout à l'heure du groupe pour l'Europe des Nations. C'est à peu près ce qui représente les mieux ce que nous souhaitons. J'espère que pendant le débat, nous pourrons dire pourquoi nous sommes contre cette Europe et quelle Europe nous souhaitons.
Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je pose la question du groupe, c'est oui, qu'est-ce qu'il a déjà fait, ce groupe des nations ? Quel est son comportement ? On vient de parler de Lisbonne, il a voté comment ?
Ce groupe de nations, il s'est opposé, bien entendu, au traité de Lisbonne, au traité de Maastricht, à la constitution Giscard d'Estaing. Je rejoins mon voisin là qui vient de parler, qui dénonce un déni de démocratie consistant à faire passer par la voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui est mot pour mot la constitution que les Français avaient rejetée. Et d'ailleurs, le président Sarkozy, candidat à l'époque, s'était engagé à respecter le résultat démocratique des Français.
Quelles autres actions ce groupe pour l'Europe des Nations?
Bah écoutez, nous, au Front National, nous refusons l'Europe supranationale, c'est-à-dire une Europe qui dépouille la France de sa souveraineté, c'est-à-dire de sa liberté, et qui impose 80% environ des lois qui sont ensuite appliquées en France. Voilà, nous voulons une Europe des nations, des patries. Nous considérons qu'on peut très bien imaginer une Europe où les pays, librement, décident de traiter pour coopérer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, etc., mais non à une citoyenneté européenne, non à une Europe supranationale.
Voilà. Alors, j'en finis avec mes orphelins, et dans mon dernier orphelin, en fait, de mon point de vue, dans mon ignorance de haut rattachement, il y a Libertas. Libertas, alors si... donc, les élus de Libertas vont rejoindre quel groupe du Parlement européen?
Eh bien, les élus de Libertas rejoindront les autres élus européens de Libertas, puisque nous sommes présents dans 27 pays et qu'il faut 30 élus et 6 départements et 6 pays pour arriver à former un groupe. Anciennement, c'était le groupe EDD, Europe des démocraties et des différences, qui était mené par Jean Saint-Josse, avec comme directeur du groupe au Parlement européen Frédéric Nius, qui a été candidat au présidentiel. Il y avait 6 élus qui ont notamment voté contre la libéralisation des services publics, et je crois qu'à ce moment-là, ils ont été les seuls, avant 2004 ou en 2004, à voter contre la libéralisation des services publics. Alors, je trouve assez cocasse de voir des gens, des élus de droite et des élus de gauche, dire qu'ils sont contre cette Europe qui veut à tout prix libéraliser les services publics en France. Ils sont directement responsables et ils ont fini de le décider à Barcelone quand M. Jospin et M. Le président de la République et M. Chirac se sont retrouvés avec les autres en Espagne pour décider de tout ça. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une Europe qui mette les pieds. Alors, qui soient debout.
Je reviens, mes amis, parce que je suis obstiné, moi, sur mes questions. Par un extraordinaire malheur, il n'y avait pas d'élu Libertas dans tous les pays, vous vous orienteriez vers quel groupe existant?
Nous verrons au moment. D'abord, il faut avoir des élus. Ensuite, il faut avoir des élus. Le fait de se rattacher à un groupe est une question technique. C'est pas parce que vous êtes dans le même groupe que vous allez voter de la même façon. Vous allez par contre avoir accès au temps de parole à vous répartir entre les différents membres du groupe, et vous aurez accès au financement qui vous permettra de travailler et d'avoir un budget pour avancer. C'est la seule fonction du groupe. Alors si évidemment on a un groupe où on est assez nombreux pour faire des propositions, c'est encore une idée qui n'est pas juste, puisqu'en fait c'est la commission qui a l'initiative des propositions.
Alors, on verra.
Et non pas les parlementaires.
Alors, ça fera l'objet de la deuxième question, ça. Hein. Et donc, j'en ai fini avec ceux que j'appelais mes orphelins. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'arrivée du représentant de l'UMP, si je ne me trompe pas, Aurélien Pradier. Et puis, j'en profite du coup pour lui demander. Alors lui, je suppose, j'ai cru comprendre que l'UMP adhérait au Parti Populaire Européen, ce qui, moi, m'interpelle un peu, parce que c'est là que je voudrais qu'on parle un peu de l'historique des groupes du Parlement européen, parce qu'il y a une époque où, alors certes, l'UMP n'est pas le RPR, mais enfin, il y a une époque où le RPR ne siégeait surtout pas au Parti populaire européen et avait formé un groupe avec les conservateurs britanniques. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être le groupe de destination de l'UMP. Alors, je voudrais savoir si je me trompe pas et pourquoi.
Non, vous vous trompez pas, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est l'évolution et c'est probablement le progrès. Déjà, je voulais m'excuser de mon retard, mais la route était un petit peu longue. Il se trouve qu'effectivement, l'UMP a participé à la création, enfin, a participé sur la finalité à la vie du PPE et participera toujours à la vie du PPE. Je pense que c'est une évolution intéressante. Dans ce grand Parlement européen, plus on est, plus on est fort et plus on pèse. Et c'est un sentiment d'unité, une véritable vérité d'unité. Et je pense que c'est un gage d'efficacité qui n'est pas négligeable. Alors après que le RPR, dans des temps passés, n'ait pas fonctionné comme cela, probablement, mais vous savez, l'histoire évolue et le progrès se fait au jour le jour.
au sein du PPE, et je le fais puisque personne autour de la table n'a l'air de réagir, mais y a des gens qui appartiennent à, enfin il y a des gens qui sont un peu contestés, je pense aux Bavarois. Ça crée pas d'état d'âme.
Mais c'est, le problème n'est pas de créer l'état d'âme. Quand nous sommes pas d'accord avec les Bavarois, nous le disons, et je pense que nous l'avons dit suffisamment par le passé. Le problème n'est pas là. Vous savez, quand on est dans une grande famille politique, ça n'empêche pas de pouvoir ouvrir sa bouche lorsqu'on a envie de le faire. On est dans une grande famille politique pour peser sur des grandes décisions. C'est la seule vérité qui compte. Ensuite, nous soupçonner de peser avec les Bavarois, je pense que c'est un petit peu facile. Ça n'a jamais été le cas, et je pense pas qu'on puisse soupçonner Dominique Baudis de transiger sur ses idées de ce point de vue-là.
Alors, puisque j'ai abandonné mes orphelins, il y en a un autre qui, je crois comprendre, encore que pendant des lustres, il adhérait au PPE, et c'est le MoDem. Et j'ai cru comprendre que le MoDem n'irait pas au PPE. Est-ce que je me suis trompé?
Alors oui, bonsoir. Tout à l'heure, je souhaite vous remercier également d'avoir organisé cette rencontre. Le MoDem n'appartient pas au PPE. Le MoDem appartient à l'heure actuelle à l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, puisque notre députée sortante Anne Lapérouse, qui est tête de liste avec Robert Rochefort, appartient déjà à ce groupe, ainsi que nos autres députés européens comme Marielle de Sarnez. Donc il y a des liens qui sont déjà anciens les députés qui seront élus appartiendront à nouveau à ce groupe de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe.
Donc à Strasbourg, les démocrates s'allient aux libéraux.
Ah oui, alors si vous voulez entrer dans la question du débat sur le terme de libéral, je crois que quand même, le terme de libéral n'a pas tout à fait le même sens en France et ailleurs. Nous, on est libéral, pas au sens économique, mais d'abord au sens humain. C'est vrai que en France, lorsqu'on dit qu'on est libéral, immédiatement il y a des réactions assez vives, mais on peut tout à fait être libéral sur le plan humain, c'est-à-dire aller vers cette liberté.
Un peu comme M. Delanoë, quoi.
Ah, je sais que M. Delanoë le dit également, mais je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui.
Alors, le Parti Socialiste, il y a un Parti Socialiste européen, alors je suppose qu'il adhérera, mais je vous écoute.
Pierre Pantaléa, donc du Parti Socialiste. D'abord, merci de nous avoir invités tous. Je prends note que ma collègue du MoDem n'a jamais rencontré Delanoë. Je l'inviterai prochainement pour pallier à cette carence. Il verra que dans le mot libéral, il n'y a pas du tout la même façon de concevoir le libéralisme, y compris en Europe. Alors nous, effectivement, on adhérera au PSE, ce qui est naturel. Parce qu'on y est, historiquement on y est, on est représenté dans les 27 pays, 33 partis politiques en Europe, socialistes, sociaux-démocrates.
Ça veut dire plus que de pays?
Plus que de pays, il y a des pays où il y a deux partis qui adhèrent au PSE. Alors de mémoire je les ai plus en tête, mais en France on a un parti socialiste. Alors le PSE c'est la deuxième force européenne et qui n'a pas la majorité de 70 voix. C'est-à-dire que si demain, le 7 juin, on arrive à faire basculer la majorité européenne, qu'on bascule 36, on aura une majorité pour faire une Europe sociale, ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
Quelqu'un rebondit sur le fonctionnement du groupe du Parti Socialiste Européen et cette malencontreuse absence de majorité, du moins pour l'instant?
Moi, je veux bien rebondir, puisque 90% des textes, des directives votées à Bruxelles sont votées à la fois par le PPE et par le PSE, autrement dit par la droite et la gauche réunies. Ensemble, ils votent les mêmes textes. Donc, PPE, PSE... Ça me gêne pas trop, quoi.
Alors l'UMP, qu'est-ce que...
Non, je sais pas.
PPE qui vote avec le PSE.
Ah, mais si sur des sujets qui le méritent, chère madame, 90%. Nous arrivons à nous entendre, je vois pas où est le problème.
90%.
Vous savez, parfois,
Si en France c'était pareil, ce serait un rêve.
Oui, probablement. Mais vous savez, parfois, ceux qui sont le moins nombreux n'ont pas nécessairement, ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus raison. Sur la question du PSE, tout à l'heure, vous m'interrogiez sur la contenance du PPE. Moi, sur le PSE, je me demandais, j'ai relu ce matin un document qui m'est passé dans les mains. Le Parti Socialiste, dans sa campagne des élections européennes, s'est interrogé beaucoup. Sur José Emmanuel Barroso. Je me demandais quel rôle Barroso jouait au sein du PSE.
Mais, là, je peux répondre facilement. D'abord, les 90% de directives que soi-disant le PSE a votées, il faut savoir qu'au Parlement européen, on vote pour tout, y compris pour la grandeur d'un rétroviseur. Donc, hélas. Il faut voir. Oui, hélas. Mais le PSE, excusez-moi, a jamais été absent contre la directive Bolkestein, elle était présente, on a voté contre le pacte ferroviaire, par contre Libertas, enfin, voilà. Attendez, laissez-moi, oui, madame, il faudra que vous repreniez vos livres d'histoire et vous verrez.
Quand le pacte ferroviaire, c'est qu'une conséquence de ce qui a été voté
Je réponds à monsieur de l'UMP parce que je crois que... Il se raconte un peu n'importe quoi. Si demain, on a la chance d'avoir la majorité, ce que j'espère pour le PSE, c'est pas Barroso que nous allons mettre à la tête du Parlement.
Et jusqu'ici, il a été soutenu par les socialistes.
Non, pas toujours.
Si je peux avoir la parole.
Pour l'instant, il nous reste un groupe qui n'a pas encore été évoqué.
On m'a proposé de répondre.
Alors bon, on va répondre.
Non, mais très vite, parce que moi, je pense que c'est important pour nos auditeurs de faire la clarté dans le débat et de dire la vérité. En tout cas, pour ce qui nous concerne, le Front de Gauche, l'enjeu de ces élections, c'est d'arriver à sanctionner et à incarner au Parlement européen une opposition à la politique de la droite, de Sarkozy, et de l'Union européenne qui mène la même politique. Donc la question, c'est comment on renverse les rapports de force au Parlement européen. Et à l'occurrence, dans la mandature précédente, c'est vrai que le groupe du Parti Socialiste Européen n'a pas incarné une alternative au Parlement, ne serait-ce que parce qu'il a voté les libéralisations du rail, de la poste et de l'énergie. Et ensuite, c'est pas bien de mentir aux gens, le Parlement européen a quand même relativement peu de pouvoir par rapport à la Commission et au Conseil des chefs d'État. L'enjeu primordial, c'est la question de la Commission et du président de la Commission. Or, sur cette question-là, les partis sociaux-démocrates européens, M. Zapatero, M. Gordon Brown, ont déjà appelé à la reconduction de M. Barroso comme président de la Commission européenne. D'où l'importance d'incarner dans ces élections, et moi je l'appelle aux électeurs de gauche, indépendante au Parlement européen.
Je ne peux pas laisser dire ça, parce que le Parti Socialiste Européen, s'il est élu, aura un candidat, juste en deux secondes, aura un candidat issu de sa majorité et n'aura pas M. Barroso. Voilà.
Messieurs, s'il vous plaît. Le dernier, oui, je l'avais gardé en dernier parce que il allait de soi que les Verts adhéraient au groupe des Verts, mais encore faut-il qu'ils nous disent un petit peu pourquoi et quel est le passé justement de ce groupe des Verts s'il existe depuis longtemps et ce qu'il a fait. Voilà.
Le groupe des Verts est un des groupes qui est des plus anciens au Parlement européen. C'est un des groupes qui a été le plus attaché à l'Europe, je crois, mais à une Europe, à une autre Europe. Et justement, là, je voulais rebondir sur la Commission et Barroso, parce que justement, un des enjeux, je pense, de cette nouvelle législature, ça sera que le Parlement réussisse à voter contre le gouvernement Barroso et à le mettre à l'écart. Donc c'est une des propositions fortes des futurs députés européens. Je voulais dire, donc, je suis Marie-Claude Carlin, donc, pour les Verts Aveyron, mais je ne suis pas j'ai remarqué que tout le monde était candidat, mais je ne suis pas candidate.
Vous êtes glissée clandestinement en dépit de nos critères et de nos exigences.
J'ai été déléguée par le tête de liste José Bové, en l'occurrence.
En plus, il n'était pas loin, mais il aurait pu.
Ah ben, il était un peu assez loin, et donc voilà, je suis là pour les Verts. Et je voulais dire aussi que j'ai entendu aussi dire que le Front de Gauche se posait vraiment comme contre pour un non à l'acte, à la dernière constitution. Et je récuse aussi souvent ce que le Front de Gauche fait dire aux Verts, c'est-à-dire que nous serions donc pour reconduire la même constitution. Non, justement, dans notre programme, la proposition suivante est relativement très importante, c'est-à-dire que nous demandons une nouvelle constituante, qui sera chargée de refaire une nouvelle constitution beaucoup plus démocratique, parce que les Verts, même s'ils sont des Européens convaincus, ne sont pas d'accord pour recommencer avec une constitution si opaque, qui impose souvent au pays des directives qui n'ont pas été jamais discutées dans les parlements respectifs.
Ce que vous appelez improprement constitution, c'est pour l'instant le traité de Lisbonne.
Le traité de Lisbonne, qui est le copier-coller de la constitution européenne, les Verts demandent l'application.
Les
listes européennes écologiques demandent l'application.
Depuis le traité de Maastricht, les Verts, en tout cas les Verts en France, ont d'abord appelé à Maastricht à voter non. Bon, il se trouve qu'au dernier référendum, les Verts ont été divisés. Se sont partagés entre ceux qui étaient pour le oui et l'autre pour le non. Mais en réalité, l'opinion majoritaire des Verts, c'est qu'il fallait une Europe, changer d'Europe. Alors certains pensaient qu'on pouvait changer l'Europe en reconduisant l'ancien système, et d'autres donc pensaient qu'il fallait absolument changer la Constitution déjà. Donc c'est pour ça que nous sommes partis actuellement, vous le voyez, avec un tête de liste, José Bové, qui a appelé à voter non.
Il y a une question que j'aurais posée.
Daniel Cohn-Bendit qui nous a traité de xénophobe en 2005 parce qu'on a appelé à voter non.
Alors il y a une question que j'aurais posée quasiment à la cantonade. Est-ce que véritablement le Parlement européen a les pouvoirs, les moyens de modifier un traité?
Je voudrais prendre la parole là-dessus, Sandra Torremocha, donc de Lutte Ouvrière. Justement, moi, tout ce débat là jusqu'à maintenant m'inspire quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le pouvoir du Parlement européen est extrêmement limité. Et je voudrais donc là encore dénoncer tous ceux qui accusent l'Europe d'un certain nombre d'attaques qui seraient menées à cette échelle-là. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible. Toutes les décisions qui sont prises dans chaque pays sont prises par les chefs d'État et les gouvernements de chaque pays. Donc l'Europe, malheureusement, c'est une Europe qui est une Europe qui essaye de réguler le marché, c'est-à-dire une Europe faite pour les marchands, pour les capitalistes, pour les banquiers. C'est une Europe dont la préoccupation n'est pas du tout, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, les droits sociaux, et on pourra en parler après, puisque on a vu qu'il pouvait y avoir un désaccord pour réglementer.
On en parlera effectivement après, puisque c'est le MoDem sur cette faculté du Parlement éventuelle de modifier le fonctionnement.
Donc, j'aurais aimé d'abord réagir par rapport à Monsieur Barroso, pour dire très clairement que au niveau du mouvement démocrate, à la précédente mandature, le mouvement démocrate n'avait pas voté pour Monsieur Barroso parce que il ne convenait pas à cette époque. Et on voit qu'on a eu raison, puisque il a, en tant que président de la Commission, un pouvoir d'initiative important. Malheureusement, nous sommes dans une période de crise et il n'a pas suffisamment réagi par rapport à cette crise. Alors, à l'époque, j'ai plus le nom en tête, mais là, nous avons une personne que nous souhaiterons proposer, qui est l'ancien Premier ministre belge, qui est Guy Verhofstadt, qui est candidat à l'heure actuelle en Belgique, et nous envisageons de le proposer, mais en même temps, on n'est pas fermé à d'autres propositions, s'il y a d'autres candidats qui nous paraissent satisfaisants.
Monsieur Pantanella, sur cette faculté qu'a ou non le Parlement de modifier le fonctionnement de l'Europe?
Alors là, Le Parlement, et je vais rejoindre tout à fait Lutte Ouvrière, a aucune prérogative. Il a aucun pouvoir. Et effectivement, c'est les dirigeants européens, les partis au pouvoir, qui dirigent l'Europe. Donc, tout ce qui est pris comme décision est pris par les chefs d'État. Et quand c'est, j'allais dire, pas bien, c'est l'Europe. Et quand ça fonctionne, c'est, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses. Alors, le traité de Lisbonne, je suis d'autant plus clair, c'est que j'ai fait campagne pour le non, y compris à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc, je suis encore plus clair que certains. Donc, ce que je veux dire, le traité de Lisbonne a deux volets. Un volet politique qui donne plus de pouvoir au Parlement, puisqu'on parle de co-gestion entre le Parlement et la Commission, ce qui, à mon sens, va dans le bon sens, et malheureusement, avait tout un volet, et là je le rejoins, de libéralisation de tout, c'est-à-dire de non pas de réguler le marché, mais de l'ouvrir à la concurrence effrénée, chose aujourd'hui, on voit bien, avec la crise qui se passe, et qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut effectivement encadrer le marché. Et le Parti Socialiste Européen a des actions dans ce sens-là, notamment au niveau des salaires, au niveau des services publics.
On abordera voilà. ça dans...
Le Parlement européen aujourd'hui n'a aucun pouvoir et je suis d'accord.
Alors, on va aborder ça dans notre deuxième partie, hein, de toute façon, parce qu'après je voudrais, ça va être la deuxième partie où je vous demanderai concrètement comment ça va se passer, ce que vous allez faire là-bas. Donc on prend une petite pause et puis on reprend notre deuxième partie.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Et Eh bien donc, c'est l'édition exceptionnelle de Table Ovale sans ellipse à propos de l'élection au Parlement européen animée par Claude Devezin, et avec ce soir un représentant de l'UMP, Aurélien Pradier, du Parti Socialiste, Pierre Pantanella, d'Europe Écologie, Marie-Claude Carlin, du Mouvement Démocrate, et Émilie Tessette-Julien, du Front de Gauche, Guillaume Sériès, de Libertas, Marie-Francine de Pierrepont, du Front National, Serge Larose, de Lutte Ouvrière, Sandra Torremocha, et du nouveau Parti Anticapitaliste, Maxime Gaillac. Donc dans notre première partie, nous avons vu vers quel groupe du Parlement européen, puisqu'il faut adhérer à un groupe au Parlement européen, se tourneraient les candidats qui seraient élus. Et nous avons vu aussi un petit peu quel était l'historique, le comportement, la posture de ces groupes au Parlement européen. Et maintenant, je voudrais que concrètement, on voit ce qui va se passer lorsque vous allez être élu. Vous êtes élu, vous allez, je suppose, constituer le bureau du Parlement européen, et puis il y a un moment où va arriver le travail. Alors le travail, je voudrais savoir un petit peu en quoi ça consiste. C'est vous qui fixez l'ordre du jour, c'est la commission, et comment allez-vous débattre sur des textes de loi, sur des directives, sur des vœux, ça existe ça aussi. Je voudrais savoir concrètement ce que vous allez faire pour commencer à travailler. Alors, vous avez tous des représentants, hein, ou presque. Enfin bon, on a les Verts, ils ont des représentants actuels au Parlement européen. Alors peut-être qu'ils vous ont dit ce qu'ils y faisaient.
Gérard Ronesta, oui, le député sortant qui ne se représente pas, qui était élu sur le Sud-Ouest avec un des scores les plus importants d'ailleurs sur toute la France. Et il a fait un énorme travail en tant que vice-président d'ailleurs du Parlement européen. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter justement à Bruxelles et à Strasbourg, à voir le travail des députés européens. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça demande une présence, comme pour d'ailleurs toute l'Assemblée. Quand on veut faire le travail comme il faut, ça demande une présence extraordinaire. Et ensuite, il y a une très grande complexité quand même, parce qu'il y a des langues différentes. Donc, on est assez impressionné quand on rentre dans l'hémicycle de voir chaque fois les traducteurs qui sont tout autour. Et donc, voilà, je crois que c'est quand même un travail très différent.
Je ne vous ai pas demandé la rédaction nous racontant comment vous avez passé vos vacances, là, parce que pour l'instant, vous nous décrivez la couleur de la moquette.
Je raconte comment j'ai vu travailler les députés européens et comment j'ai vu, puisque Gérard Ronesta ne manquait pas de nous envoyer un bulletin avec tout ce qu'il faisait très régulièrement. Donc, je veux dire que quand on fait son travail, qu'on va au Parlement européen, je ne veux pas citer des absents notoires du Parlement de Strasbourg, eh bien, il y a beaucoup de travail. Donc, alors, parce que le travail en commission, le travail dans l'hémicycle, le travail ensuite avec les autres groupes étrangers, puisque les Verts fonctionnent vraiment.
Ce que je voulais savoir, donc je vais en même temps me tourner vers d'autres, déjà pour leur donner la parole et puis pour essayer d'avoir une. Quel est l'objet du travail, parce qu'on nous a parlé des rétroviseurs tout à l'heure, mais Monsieur Pradier, vous, quels sont les témoignages, quelle idée vous faites du boulot que vous allez avoir et de l'influence qu'il aura?
Non, simplement, je pense qu'il y a un devoir d'honnêteté, enfin je ne sais pas autour de la table exactement qui nous sommes, mais moi en ce qui me concerne, je suis conseiller général dans le département du Lot, je suis 9e sur la liste, et à part un miracle qui me satisferait beaucoup, mais qui en surprendrait beaucoup, je ne serai pas député européen demain.
La législature est longue, étant dit, il y a des accidents.
Oui, mais enfin jusqu'au 9e, ça serait une calamité dont on ne souhaite pas. Non, simplement, ce qui est clair, moi, quand je me suis engagé, je pense que chacun, on peut en parler de cette manière-là. Lorsqu'on s'engage sur une liste, ça a du sens, sur une liste européenne. Moi, le sens que je voulais pouvoir lui donner, et je parle pour moi, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'était d'abord de pouvoir faire remonter, au niveau de Dominique Baudis, au niveau des trois premiers qui pourront être éventuellement élus sur la liste, les préoccupations locales. Et si j'ai souhaité m'engager, c'est cette responsabilité d'abord qui me semblait importante de mettre en avant. Et il y en a beaucoup sur la liste de Dominique Baudis qui sont dans cette situation-là aussi. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, on aura 3 ou 4, ou peut-être 5 parlementaires européens. Toujours est-il, eux auront la mission de parlementaire européen, qui n'est pas simple, si on parle
du
mandat.
Ceux qui vont voter, ils vont voter pour que des gens, justement, auxquels on donne une mission, fassent quelque chose.
Mais ils vont voter.
Je vous demande,
ils vont voter.
que vont-ils
faire? Justement, notre mission, je vais pas vous parler de ce que vont faire les autres, mais ce que je peux vous dire, c'est ce que je vais faire moi. Et en étant présent sur la liste, je pense qu'on a cette responsabilité aussi. Je pense que les Lotois et d'autres trouvent cette responsabilité qui est simplement de faire entendre auprès de nos décideurs européens nos préoccupations locales. On reproche souvent, et je fais partie de cela, à l'Europe d'être très lointaine, de s'occuper de sujets dont elle ne devrait pas s'occuper. Et je pense que la présence d'élus locaux sur une liste est un gage de réalité et de réalisme, d'un peu de concret dans le combat européen. Ce que fera au quotidien Dominique Baudis, Christine de Vérac et Anna Massour, je ne sais pas. Ils feront leur vrai travail de parlementaire comme ils l'ont toujours fait, avec une ayant une présence importante au Parlement. Tout ce que je sais, c'est que dans ma situation et dans la situation de nombre de colistiers, on fera remonter les préoccupations du terrain.
Alors moi, je peux répondre de manière très simple à votre question. Je crois qu'aujourd'hui, donc, hein, Sandra Toremocha, tête de liste, hein, ça a été précisé, de lutte ouvrière. Donc, si
vous ferez, vraisemblablement,
voilà,
espérez vraiment.
Si je suis élue, de toute façon, on a l'expérience, hein, comme je l'ai dit, d'Arlette Laguiller, des autres camarades qui ont déjà été élus. Nous, notre mission au sein du Parlement européen, c'est exactement le même travail militant que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire qu'on est les porte-parole et on essaye de défendre les intérêts politiques et sociaux des travailleurs. Lorsque il y a des luttes sociales, par exemple, eh bien, le Parlement européen peut être une caisse de résonance pour dénoncer, par exemple, les licenciements. Quand on voit aujourd'hui la
Donc
manière...
Donc, il fait des vœux. Là, c'est des vœux. C'est intéressant aussi, les vœux.
C'est
hein.
une tribune. Moi, je crois que le Parlement européen, on l'a dit tout à l'heure, n'a strictement aucun pouvoir. Hein. Donc, la seule chose qui peut servir à faire, c'est d'une part... affirmer une certaine idée de l'Europe, et ça je pense qu'on en discutera tout à l'heure. En tout cas, moi j'ai une idée de l'Europe internationaliste qui me tient à cœur, et je crois que c'est l'occasion d'en parler à l'occasion de ces élections européennes. Mais sinon, de toute façon, pour répondre donc concrètement à votre question, moi je prends un exemple concret. On voit aujourd'hui la manière dont sont traités les travailleurs de Molex. C'est une entreprise hein, où un conseil d'administration, qui n'a été élu par personne, impose en toute impunité à presque 300 familles de se retrouver dans des difficultés sans nom quand on sait aujourd'hui qu'il y a 3000 chômeurs de plus par jour dans le pays. Autrement dit, on condamne, on peut dire malheureusement, à la misère des familles. Pourquoi ? Pour que un grand groupe industriel continue à faire des bénéfices. C'est ce que j'appelle la dictature des grands groupes industriels et financiers. Et les grands
Alors,
groupes... Je finis sur ça parce que je pense
quelle
que
va
cette
être
dénonciation...
La forme non, mais...
Cette dénonciation, il faut la faire à l'échelle européenne.
Ça fait partie,
les grands
ça
groupes,
fait partie de ce qui est
je voudrais finir, parce que tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé finir. Hein, donc là, je vais finir. Les grands groupes industriels sont des grands groupes à l'échelle européenne. Hein, vous prenez Peugeot, Citroën, vous prenez Renault, vous prenez Carrefour, vous prenez le groupe Accor. Tous ces grands groupes licencient à tour de bras dans toute l'Europe. Eh bien, je crois que les travailleurs, ils ont commencé à se battre dans certains cas, lorsqu'ils sont dos au mur. Eh bien, il faut que cette lutte soit relayée le plus possible dans toutes les institutions. Et ça peut être une lutte européenne à relayer au niveau des...
Est-ce que quelqu'un va me dire si ce relais, parce que j'entends bien, j'espère bien que tous, vous allez pour relayer vos mandants, vos électeurs. Mais ça va se passer, ça aura un effet avec des lois, avec des vœux. Alors, le MoDem qui est là-bas depuis longtemps, et puis on entendra alors, après.
Donc, pour le mouvement démocrate, Émile Tessèdre-Julien, moi, j'aimerais d'abord rectifier une chose. Hein, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai entendu dire que le Parlement européen, en gros, ça servait à rien, qu'il n'avait pas de pouvoir. C'est vrai qu'à l'origine, il avait un simple rôle consultatif, mais de plus en plus, il participe à la codécision d'un certain nombre de sujets. Alors, à l'heure actuelle, il y en a 37. Avec le traité de Lisbonne, on passerait à 85 sujets pris en codécision entre donc le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Donc nous, on trouve que ce sont des choses qui vont dans le bon sens.
Le Conseil de l'Union européenne, c'est le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres. Donc nous, on trouve que ça va dans le bon sens. Ce qu'on aimerait surtout dire au niveau du mouvement démocrate, c'est que qui représente les citoyens au niveau européen ? C'est le Parlement. Ce ne sont pas les autres institutions. Donc pour nous, cette élection est un enjeu majeur parce que voter le 7 juin, c'est un moyen de pouvoir être représenté. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'abstention, mais nous sommes quand même particulièrement inquiets par l'abstention. On a l'impression que ça arrange certains partis politiques, hein, que les gens ne se déplacent pas. Or, pour nous, nous pensons que l'Europe... et l'Union européenne, c'est vital. Et qu'il faut absolument qu'on arrête de critiquer, alors c'est vrai que c'est pas parfait, hein, l'Union européenne, mais qu'on arrête de critiquer comme quoi l'Union européenne serait la cause de tous nos maux. Certes, il y a des dysfonctionnements, mais là-dessus, nous sommes en désaccord. Et nous pensons que il faut que cette Union européenne fonctionne, que les citoyens s'en emparent, que ce soit une affaire des citoyens. Et nous avons notamment un certain nombre de propositions. Par exemple, très concrètement, pour toutes les décisions en discussion, nous souhaitons que ces décisions soient communiquées à l'ensemble des citoyens 3 mois avant, afin que les citoyens puissent réagir, s'exprimer, au besoin saisir leurs députés européens, afin de faire remonter un certain nombre de désaccords ou d'accords avec ce qui est proposé.
Alors,
et la fois où on les a consultés, ils ont battu en brèche ce que vous avez fait au Parlement européen.
En Irlande, on les a fait voter 3 fois quand même.
Le Front de Gauche, puisque vous initiez, c'est la parole. On vient de nous parler de sujets et de co-décisions. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que des sujets qui sont passés de 40 à 80, cas échéant, et à quel point c'est quoi une co-décision entre la Commission et
le Parlement? Je m'excuse, monsieur Devezin. Je ne veux pas vous décevoir, mais je ne souhaiterais pas que notre débat tourne uniquement autour des questions techniques de fonctionnement de l'Union européenne. Je peux vous répondre très vite. Les questions très importantes, c'est les chefs d'État qui les traitent entre eux. Les questions un peu moins importantes, c'est des co-décisions. Et les questions qui sont pas très importantes, c'est que le Parlement. Mais ce n'est pas pour ça que l'élection européenne du 7 juin n'a pas d'importance. Qu'on se comprenne bien. Parce que avant d'être des élections pour désigner les parlementaires au Parlement européen, ce sont des élections avec un contenu hautement politique. Les premières élections depuis qu'a surgi la crise du libéralisme, du capitalisme. La première élection depuis qu'il y a un formidable mouvement social qui s'oppose à Nicolas Sarkozy. Donc le Front de Gauche dit, d'abord, saisissez-vous de votre bulletin de vote pour une insurrection démocratique contre les puissants et contre la droite. Deuxièmement, sur le rôle des parlementaires européens du Front de Gauche, pour essayer de donner du sens. D'abord, ils seront les défenseurs inflexibles de l'intérêt général. Ça veut dire défendre les gens ordinaires plutôt que les financiers, mettre les travailleurs devant, les financiers derrière, et essayer de réorienter l'Europe dans le sens de l'intérêt général. On disait tout à l'heure, certains disent que l'Europe serait source de tous les maux. Bien sûr que non. Mais l'Europe devrait être une solution face au péril de ce monde. La paix, la catastrophe écologique, la baisse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, clairement, l'Europe pose de sérieux problèmes. Des problèmes démocratiques évidents. C'est-à-dire que les dirigeants européens veulent faire fonctionner l'Europe contre l'avis des citoyens, en témoigne le vote du traité de Lisbonne. Et puis, deuxièmement, tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour sortir le monde des périls dans lequel il est interdit par le traité de Lisbonne qui a été voté par l'UMP, le MoDem, le Parti Socialiste Européen et les Verts. Par exemple, il faudrait harmoniser la législation sociale, mettre des SMIC dans tous les pays pour lutter contre les délocalisations, pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat. Le traité de Lisbonne l'interdit. Il faudrait défendre les services publics. Sur le rôle des députés du Front de Gauche au Parlement européen, je peux vous dire qu'en tout cas, Jean-Luc Mélenchon et sa deuxième de liste, Cathy Daguerre, seront les défenseurs inflexibles de l'intérêt général, de la laïcité qui est si piétinée au niveau européen.
On reviendra notamment sur cette idée du SMIC européen. Le Parti Socialiste, quel est, sur ce qui vient d'être dit et sur notamment cette co-décision, alors si j'ai bien compris, ça reste les gouvernements, même pas les élus d'ailleurs, les gouvernements qui prennent les grandes décisions, les moyennes c'est en co, je sais toujours pas en quoi consiste le co d'ailleurs, est-ce que ça se termine sur un ring, on le fait au dé,
au consensus.
Pas du tout, consensus
entre la Commission et le Parlement.
Et avec les chefs d'État, les ministres représentants, le conseil des ministres, puisque pour l'agriculture, c'est les ministres de l'agriculture.
Voilà.
Donc c'est chaque ministre qui représente.
Maintenant, sur les...
Je vais répondre.
Les...
C'est vraiment pour tourner à droite. Même le tom-tom est inféodé à l'UMP, mais bon, c'était le moment d'humour.
Du coup.
C'est un joli symbole, vous
remarquerez. Il m'a fait joli, je sais pas. Il m'a fait perdre le fil.
Je suis désolé, je m'excuse.
Bah, on va pas perdre le fil quand même.
Non, je vais répondre quand même parce que mon ami Guillaume, je viens d'entendre deux grands principes sur lesquels nous, au PSE, puisque le PSE, on a débattu les 33 partis politiques qui représentent les 27 pays, et on a fait un programme, j'oserais pas dire un programme commun, mais un programme pour justement orienter la politique européenne. Et dans cette politique européenne, il y a le SMIC minimum, 60% du salaire médian dans chaque pays, avec un objectif.
Avec, je me demandais bien, donc c'est 60% du salaire médian dans l'État où sont les salaires.
Dans l'État où sont les salaires, avec, il faut pas l'oublier, un calendrier pour harmoniser le salaire minimum dans tous les pays. Et pas salaire minimum vers le bas, mais vers le salaire minimum le plus haut. C'est-à-dire qu'on mettra en place un calendrier d'harmonisation des salaires. Donc voilà, voilà quelque chose de concret. On va mettre... Laisse. On va mettre en place aussi, pour préserver les acquis sociaux dans chaque pays, une directive, une clause de sauvegarde de ces acquis sociaux qui sera un peu le takeba. Voilà les... Et j'invite tous ceux qui sont autour de la table, avant de dire pourquoi vous ne les avez pas fait, pourquoi si, pourquoi là, de lire le manifesto qui a été signé, co-signé par 33 partis politiques, y compris par les sociaux-démocrates anglais, y compris par les Espagnols. Donc on a aujourd'hui un programme sur lequel on va le mettre en application si le PSE est majoritaire. Alors, simplement, avec un peu d'humour, moi je suis pas tête de liste, je suis 17e, il faudrait vraiment un charter qui se perde dans l'Atlantique pour que je sois au Parlement. Mon tête de liste, Kader Arif, a été, vous pouvez le regarder, le 12e parlementaire européen français en termes de présence au Parlement européen. Donc c'est des gens qui travaillent, qui ont l'habitude d'être présents et de travailler. Je crois que tout le monde ne peut pas le dire.
Gérard Onesta était le premier.
Oui, mais Gérard Onesta a énormément de qualités.
Franchement, on va pas se battre sur le fait que ça soit le premier ou le deuxième.
C'est normal que vous ne battez pas.
Gérard Onesta, qui est du Tarn, et n'est pas du Tarn comme moi, a été vice-président du Parlement européen plusieurs fois. Il termine son mandat européen, puisqu'il ne se représente pas, sur un point d'ordre particulièrement intéressant. Il porte le projet d'une piscine à usage des parlementaires et des hauts fonctionnaires européens à hauteur de 9,3 millions d'euros. Avant rallonge budgétaire, évidemment. 9,3 millions d'euros, une piscine. Quand on a les problèmes du lait, quand on a les problèmes de grippe aviaire qu'on a eu, avec toute la filière aviaire française a été très touchée, et on a payé, on nous a fait payer un tas de... Moi, je suis dans l'élevage avicole. On nous a fait payer un tas de choses. Il y a plein de dysfonctionnements. Bolkestein, vous avez dit que ça n'avait pas été voté. Bolkestein est appliqué. Actuellement, vous pouvez faire une entreprise polonaise peut venir travailler en France.
Ah, le fameux plombier, vous savez.
Qu'est-ce que le plombier peut travailler en France avec les lois polonaises et le budget polonais. Et j'en suis certaine, mon chef de parti, Frédéric Nyos, est polonais d'origine. Donc là, il ne faut pas trop nous raconter n'importe quoi. Donc, le problème du lait, il y a eu des quotas. Inferno. J'ai vu des tas de voisins mettre du lait dans le fossé parce qu'ils n'avaient pas le droit de le vendre et ils n'avaient pas le droit de le donner. Donc ils le mettaient dans le fossé. Maintenant, on a tellement élargi les quotas que les cours se sont effondrés. Alors l'année dernière, c'était effondré parce que il manquait du lait.
Bon, mais le Parlement, il peut quoi?
Et le Parlement, il a libéralisé le prix du lait et il a accepté les importations du lait des pays tels que la Nouvelle-Zélande qui sont des pays hors Europe. Donc si ces pays rentrent du lait en France, ils doivent le rentrer au prix français et non pas à un prix qui est très en dessous des coûts de production français.
Je constate quand même que les producteurs de lait se battent contre les groupes industriels de la distribution qui sont les responsables du vol qui leur est fait.
Mais parce qu'on leur a ouvert les portes.
Non, c'est là où vous mentez quand vous dites ça.
Je ne mens pas, madame, jamais.
Parce que quand on regarde aujourd'hui qui décide, Et même si le Parlement européen change, de toute façon, les décideurs, les vrais décideurs seront les mêmes. Ceux qui ont le véritable pouvoir aujourd'hui, ce sont ces grands groupes.
Mais c'est pour ça que le 16 décembre...
Quand vous écoutez, laissez-moi finir, oui, s'il vous plaît. Quand vous écoutez...
Ça va aller mal, là, hein.
Alors, non, je vous dis que je
ça n'ira pas mal.
Donc,
pas mal. Mais
le commissaire, le commissaire européen de l'agriculture a repris mot pour mot les mots du représentant des industriels de la grande distribution qui disait clairement que, puisqu'il y avait crise, les grands centres de distribution, les grands industriels de l'agroalimentaire, ceux qui d'ailleurs reçoivent la majorité des aides de la PAC, oui, et non pas les agriculteurs, je tiens à le souligner, donc ces gens-là ne veulent pas payer la crise et ils préfèrent la faire payer aux producteurs de lait et aux consommateurs.
Alors, est-ce le rôle
donc
d'une Europe,
c'est bien la dictature des grands groupes industriels et financiers qui est responsable aujourd'hui du fait que les producteurs, les travailleurs, les salariés, l'ensemble des petites gens dans ce pays subissent une dictature. Et
donc
c'est
on voit bien que le Parlement, c'est un consensus, puisqu'il semblerait que Libertas et Lutte ouvrière soient en accord. Le Front National, Monsieur Larose demande, on est neuf autour de la table, Monsieur Larose me demande la parole depuis déjà un certain temps, donc un petit peu concrètement, d'autant que vous avez des gens qui sont au Parlement, enfin, qui étaient élus au Parlement depuis déjà un certain temps. Alors, un petit peu concrètement, ils y font quoi?
Bah écoutez, je suis content qu'on arrive au concret, parce que le fonctionnement, le nom des groupes, c'est peut-être intéressant, mais pas trop. Moi, je voudrais dire à nos auditeurs, pourquoi nous voulons sortir de cette Europe-là? Pourquoi le Front National refuse cette Europe? Je fais le bilan. L'Europe verte devait être une chance pour nos agriculteurs. Depuis la création de l'Europe, nous sommes passés de 6 millions d'agriculteurs à 600 000 agriculteurs. Le revenu agricole a chuté l'année dernière de 15%. Imaginez qu'on baisse de 15% les fonctionnaires. On verrait un petit peu ce qui se passerait. Voilà. Alors, on parle du lait actuellement. Je pourrais parler de la pêche. Grâce à l'Europe, nos pêcheurs qui étaient 50 000 sont moins de 10 000. Vous avez vu leurs manifestations. Ils ont raison. Le grand marché européen devait être une chance pour notre industrie. On n'arrête pas de délocaliser. Nous avons perdu la sidérurgie, nous avons perdu la construction navale, nous avons perdu le textile, nous avons perdu le jouet, nous avons perdu... Il n'y a plus une fabrication en France d'informatique, d'électronique, etc. Bien, Schengen, l'Europe, devait nous protéger de l'immigration. Oh. Eh bien, nous avons une... Oui, madame, j'ai le droit d'en parler. À mon avis, c'est le problème essentiel de la...
Aussi.
Oui, non, mais l'immigration est une bombe à
retardement. Je crois qu'on est nombreux à réagir.
C'est une bombe à retardement. Actuellement, la droite et la gauche...
C'est le fonds de commerce de Sarkozy aujourd'hui.
Oui, non, mais...
C'est le fonds de commerce du Front National.
Le fonds de commerce, ce sont les problèmes des Français. Voilà. Schengen devait nous protéger de l'immigration. L'immigration est non maîtrisée. Elle va en augmentant maintenant après l'immigration nord-africaine, africaine, il y a l'immigration roumaine, etc.
Il y a quand même des camps
l'immigration.
De concentration.
Oui, mais les camps de concentration,
rétention,
je
ne
connais pas. Bon.
Ben oui, mais...
On le sait, ça, que vous connaissez pas.
C'est dommage.
Merci.
Non, là,
merci,
c'est dommage.
Si on demandait à François Mitterrand, lui, il connaissait, il était ministre de la...
Mais concrètement, voilà. est-ce que vous allez recruter...
Non,
est-ce que
je crois...
Monsieur Larose,
je crois qu'on ne peut pas laisser dire...
Monsieur Larose,
on ne peut pas laisser dire ce qui se dit aujourd'hui.
S'il vous plaît.
Le Front National, c'est inacceptable.
Autre chose. Non, les uns et les autres.
Je voudrais croire qu'il n'y a
c'est
pas de débat.
Non, mais attendez. Monsieur Larose, j'ai une question.
Très minoritaire.
Simple. J'ai une question simple. Vous nous dites, on a un problème d'immigration, de passage des frontières. Alors, le Parlement européen, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recruter des fonctionnaires, des gardes frontières?
Non, le Parlement européen, nous n'en voulons pas. Nous voulons sortir de cette Europe-là. Nous voulons que la France retrouve son entière souveraineté. Nous sommes pour une Europe où les peuples libres, disons, signent des traités pour collaborer dans le domaine de tout ce que vous voulez.
Ça s'appelle le Moyen-Âge.
Ah oui, vous trouvez?
Ça s'appelle comme ça.
Il y a des bonnes choses. Peu importe les étiquettes, le Moyen-Âge. Nous pensons que la France constitue la meilleure structure actuellement pour assurer la prospérité, la sécurité des Français. On le voit bien. D'ailleurs, les mesures qui sont prises par les différents gouvernements européens pour lutter contre la crise, vous verrez, ce sont des mesures nationales. Elles sont prises à l'échelle nationale, oui. Il n'y a pas de décision européenne.
Justement,
parce qu'elle a échoué, nous sommes persuadés que la meilleure structure qui puisse permettre aux Français de retrouver leur souveraineté, leur sécurité, de maîtriser leur avenir, cette structure, c'est la France, et nous voulons sortir de cette Europe-là. Nous ne sommes pas anti-européens, pas plus qu'un Africain est contre l'Afrique ou un Asiatique contre l'Asie. Mais nous ne voulons pas de cette Europe qui nous mène à la
Alors, le dernier que je n'ai pas interrogé, c'est le nouveau parti anticapitaliste. Et j'aurais voulu, puisque on a pour l'instant, autour de la table, on a eu trois développements sur le SMIC européen. J'ai eu avec le Parti Socialiste une idée de ce que ça pourrait être, puisque je me demandais bien comment ça pourrait se faire. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse le NPA ou est-ce qu'il a autre chose à nous dire?
Mais oui, bien sûr, c'est une proposition d'ailleurs primordiale sur l'Europe sociale que nous on veut défendre dans cette campagne. C'est une Europe sociale, c'est basé, comme a dit la camarade de Lutte Ouvrière, c'est par rapport à toutes les fermetures de sites qu'il y a. On parle de Molex, on peut parler aussi de au niveau national, il y a Goodyear, il y a Continental, il y a eu les Friscail à Toulouse et tout ça. Déjà, je pense que c'est déjà une loi d'interdiction des licenciements au niveau européen. Parce que les licenciements, effectivement, alors on les connaît en France parce que les répercussions de la crise en France, c'est on licencie les entreprises qui sont peu... les entreprises licencient, mais aussi partout en Europe. Il y a des plans de licenciement dans toute l'Europe à l'heure actuelle. Et on se sert de la crise, justement, pour
amplifier les licenciements.
Pour amplifier les licenciements. Pour une fois, je suis d'accord avec le Parti Socialiste. Ouais. Et, mais je pense que, déjà... La priorité aussi, c'est d'avoir un salaire minimum européen pour tous. Alors, le Parti Socialiste en a parlé, le Front de Gauche aussi. Pour nous, en tenant compte du pouvoir d'achat actuel, il ne peut pas être de moins de 1500 euros net par mois. C'est-à-dire que pour nous, on défend un SMIC à 1500 euros net par mois, un SMIC européen. C'est-à-dire basé, après, bien sûr, en fonction de chaque pays. Mais un SMIC de 1500 euros net... un SMIC européen, une augmentation des salaires de 300 euros pour tous aussi. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, ceux qui payent la crise, c'est ceux qui sont licenciés, c'est comme a dit la camarade de Lutte Ouvrière, c'est les 300 salariés de Molex qui, ben, cet été, je peux vous assurer qu'ils partiront pas à vacances. Voilà. Et les grands groupes capitalistes et justement, qui dirigent, parce que on peut dire effectivement que ces grands groupes capitalistes dirigent aussi l'Europe. Je suis désolé. Il faut prendre des mesures et ces mesures, ça passe par contrôle des salariés sur l'entreprise.
Nous demandons une interdiction de licenciement des salariés et le droit de veto des comités d'entreprise.
Mais alors, à ce rythme-là, comment le Parlement européen met-il ça en œuvre?
Non, mais il y a un problème. Je m'excuse, mais j'ai entendu des lettres au Père Noël là, autour de la table, les gens qui font des vœux magnifiques. Le seul problème, c'est que l'Union européenne n'a pas du tout la compétence de pouvoir harmoniser législation sociale. Et même ceux qui ont voté le traité de Lisbonne au Parlement européen ont voté un traité dans lequel il est écrit très formellement que les États peuvent coopérer, produire du droit au niveau européen, mais à l'exclusion de toute harmonisation des législations sociales en vigueur dans les États. Tout ce que vous entendez autour de la table, ce sont des lettres au Père Noël.
Mais non, nous, on est très logiques, les Verts, puisqu'on demande une nouvelle constituante pour remettre à plat la Constitution.
Alors, moi, je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit sur l'immigration, que je trouve particulièrement nauséabond. Moi, je suis pour une Europe...
C'est l'immigration qui est nauséabonde.
Alors, vous me laissez finir, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, il faudrait se débarrasser de toutes les frontières, puisque quand on regarde qui c'est qui produit les richesses dans ce pays, qui c'est qui travaille, qui c'est qui paye des impôts, eh bien, il y a bien des travailleurs dits immigrés ou d'origine immigrée qui ont largement d'abord, qui devraient avoir le droit de vote et qui ont toute leur place dans ce pays, et je tiens à le dire, et ils ont bien plus de place que ces parasites d'actionnaires bien français qui licencient, qui exploitent les autres et qui, eux, cherchent par tous les moyens, niches fiscales, paradis fiscaux ou autres, boucliers fiscaux, à ne même pas payer l'impôt. Donc l'Europe, elle devrait aller d'un bout à l'autre du continent, c'est-à-dire en incluant la Turquie et y compris le Maghreb, puisque toute l'histoire de l'Europe, elle est basée autour des deux rives de la Méditerranée. Donc, dans cette campagne européenne, je crois que, justement, il faut faire avancer l'idée que tous les travailleurs européens doivent s'unir pour représenter une force bien plus forte que celle qu'ils ont à l'échelle nationale. Quand on voit les travailleurs de Continental, ils ont manifesté ensemble entre ceux de Clairoy et ceux de Hanovre, eh bien je crois que ça représente l'avenir et ça répond aussi à la question de comment on va faire pour harmoniser les droits sociaux. Parce qu'effectivement, ça ne viendra pas du Parlement, ça viendra des luttes sociales. Chaque fois que les travailleurs, ils ont obtenu quelque chose, y compris à l'échelle européenne, ça a été lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux, des grèves importantes et lorsque la population s'est mobilisée pour défendre ses propres intérêts. Moi, je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est d'insister sur le contrôle indispensable de la comptabilité des grandes entreprises par la totalité, non seulement des employés, mais même de la population. Parce que comme ça, on verrait que Total, hein, 14 milliards d'euros de bénéfices, il se permet aujourd'hui de licencier 450 personnes en France. Il pille l'Afrique, alors que hein, c'est un continent donc, qui hein, aurait toutes les richesses possibles pour se développer et qui est maintenu dans le sous-développement par le capitalisme Total en tête. Il rackette les automobilistes. Il fait exploser des usines comme AZF
ils polluent les côtes, hein, je ne sais pas si on parlera d'écologie tout à l'heure, eh bien on voit bien, c'est l'exemple de la cible qu'il faut avoir dans ces élections européennes, dénoncer, comme le font beaucoup de travailleurs dans leur lutte au quotidien. Et je crois qu'une grande lutte sociale, un petit peu comme ce qui s'est passé à l'échelle de la Guadeloupe et de la Martinique il n'y a pas si longtemps, permettrait de faire bouger bien les choses.
Alors pour l'instant, c'est un peu une réponse aux lettres au Père Noël en même temps. Ouais. Mais je voudrais entendre l'UMP, moi, sur les lettres au Père Noël.
Je m'excuse, mais depuis 10 minutes, je pense qu'il y a quelque chose d'assez affligeant. C'est qu'on est dans une caricature absolument invraisemblable. Alors là, on a eu droit à l'extrême droite qui nous ressort ces vieux remèdes qui font plaisir à tout le monde.
C'est les problèmes des Français,
les fonds de tiroir. Oui, non, ok, d'accord. Et, vous savez, cher monsieur, les problèmes des Français, je les vis au quotidien dans mon mandat local et je n'ai pas besoin de faire du racisme primaire pour les flatter et pour être élu. Simplement, sur le fond, la caricature, j'en vois deux caricatures. La première, c'est que au début de nos propos, on entendait à l'extrême gauche nous dire le Parlement ne sert à rien. Parlement ne sert à rien. En revanche, 2 minutes après, on nous fait tout un tas de propositions en nous disant le Parlement ne sert à rien, mais par contre, on lui demandera de faire ça. Et au moins, il va falloir régler ses pendules intellectuelles. Et
la seconde caricature... On imposera par les luttes. D'ailleurs, la caricature, c'est quand même que Nicolas Sarkozy prétendait être le président du pouvoir d'achat.
Si vous voulez qu'on mélange absolument tous les sujets pour éviter de répondre au cas par cas, on peut le faire, mais je suis pas sûr que ce soit utile.
On peut vous
la deuxième caricature... Oui, mais moi, pas personnellement, mais vous pouvez en demander. La deuxième caricature, si vous permettez que j'aille au fond de mon propos. S'agissant de l'Europe impuissante. Bon. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose d'assez intéressant. Et j'entends depuis le début de la campagne européenne. Et je pense que c'est un mal de cette élection européenne. C'est que l'élection européenne est le moment où, parce qu'elle est un peu loin des Français, on peut se permettre de lancer dans le débat tout un tas d'idées simplistes, vraiment, d'idées simplistes, souvent irréalisables. Le coût du SMIC. C'est formidable. On dit, voilà. Alors, SMIC a mis 500 euros. Et puis, on rajoute 500 euros aussi. Puis, vous savez pas ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu à la fin, et puis on refait un petit chèque sur le coin de la table. Ça n'engage personne. Mais si vous vous dressez contre l'abstention.
Moi, j'ai pas proposé ça. Non, mais c'est pas ce qu'il a proposé.
Si vous permettez, je crois que c'est caricaturer les propositions du NPA. J'ai en train de vous dire qu'on caricature et oublie que je caricature. Si vous permettez, simplement. On nous explique, en vérité, que l'Europe devrait faire beaucoup moins, et j'en suis convaincu, sur des sujets importants. Elle devrait faire moins sur des sujets locaux où nous, État, nous avons compétence et la capacité à faire. Et
on à est côté quand même de bien ça, content de prendre sa monnaie localement. Hein,
oui, non, non, mais et à côté de ça, parfois. Et à côté de ça, oui, et à côté de ça, UMP, on nous explique. Non, mais attendez, alors voilà, voilà
toujours, ça y est.
Maintenant, on allait sur les États UE.
La législation française.
Mais si vous permettez, c'est moi, je termine sur ça. On veut à la fois une Europe sociale. Une Europe qui fait plein de choses, et de l'autre côté, on dit une Europe qui fait moins de choses. Comment est-ce qu'on peut défendre ce discours-là? Et puis surtout, vous dressiez tout à l'heure face à l'abstention, qui est effectivement un mal démocratique important sur les élections européennes. Mais comment voulez-vous avoir dans un même discours, dire aux gens, le Parlement ne sert à rien, les députés européens que vous allez envoyer ne servent à rien, et de l'autre côté leur dire... Il faut que vous mobilisiez. Mais la seule pirouette intellectuelle que vous ayez trouvé certain est de dire il faut sanctionner le président de la République. Mais vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un hold-up démocratique. Ça s'appelle un déni de démocratie. Si, on l'a dit tout à l'heure.
Mon collègue de Mélenchon l'a dit. Déni de démocratie, c'est le droit de Lisbonne.
Moi, je voudrais dire quand même que 80% de la législation française dépend de décisions qui ont été prises en
Europe. Je suis convaincu que l'Europe s'en
va. Simplement, je voulais montrer du doigt.
Donc, il faudrait quand même voir que c'est très très important les élections qui nous attendent dimanche prochain.
C'est pour ça que je m'adressais à ceux qui disaient que ça me servait à rien.
Monsieur Pantaléa, pour partie, j'ai quand même répondu.
Qu'aujourd'hui, effectivement, le Parlement ne sert à rien. Alors, pourquoi demain il devrait servir à quelque chose? Alors moi, je vais vous dire, on va élire des députés le 7 juin. Ces députés vont représenter la droite, la gauche, dans sa diversité. Et après, les États vont envoyer au Parlement, quand il y a une alternance, normalement, je l'ai bien dit normalement, on envoie aux États l'alternance, c'est-à-dire que s'il y a une gauche, on va envoyer des représentants du gouvernement de gauche. Et on pourra ainsi infléchir, contrairement à ce que dit le Front de Gauche, on va infléchir la politique libérale qui est effectivement issue aujourd'hui malheureusement, du traité de Lisbonne.
Donc ça, vous le direz aux prochaines élections?
Bien sûr. Non, on va le dire aujourd'hui, là. Si on fait une alternance politique au Parlement européen, ça équivaut à l'alternance politique. Il faut regarder un peu comment ça s'est passé.
Vous nous précisez là. Si ça veut dire que vous avez changé les membres de la commission.
Bien sûr.
Ou ça veut dire autre
chose. Ça veut
chose.
Dire que derrière il y aura un parlement de gauche et on pourra faire une politique sociale,
avec un
économie.
José Manuel Barroso.
Bien sûr que
de
non.
Gauche,
non arrêtez. Je vous ai répondu déjà.
Socialiste.
Non
un
mais
peu, non
je vous ai répondu avec oui, Barroso. Où vous êtes. J'allais dire, excusez-moi.
Je suis ni sourd ni bête.
Voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même bouché parce que vous n'avez pas compris. On aura
ça vous pose problème,
un président.
Ça vous pose problème.
Barroso, oui, me pose un problème. Parce
et pourtant,
que
il est soutenu par les socialistes.
Non,
c'est ce qui vous pose vraiment problème.
Non. Je crois que attendez. Vous ne savez pas lire.
Si,
écoutez-moi,
si,
je répète, écoutez-moi.
Ah non, mais je vous ai...
Vous ne m'entendez pas.
Ce que j'ai très bien
on aura un candidat issu du Parti Socialiste Européen, Paul Rasmussen. Alors juste attendez. Non mais juste quand même répondre. Je veux quand même répondre moi sur les attaques racisme primaire du Front National, mais on a l'habitude historiquement. Je crois qu'il est important et je crois que la position qui a été prise au Parlement européen, que si le plus vieux était issu de ses rangs, il ne prendrait pas la parole pour mettre en place le Parlement européen. Pour moi, ça. C'est la démonstration qu'au niveau européen, enfin, on prend contact, on prend conscience du Front National.
Alors maintenant, moi, je voudrais arriver à un autre sujet parce que ça a été évoqué et on entend souvent dire. Alors on entend souvent dire, c'est comme il y a eu une époque, on disait, on est à une heure d'avion, on est à deux heures d'avion, on est à une heure et demie d'avion. Et sur les textes législatifs, c'est pareil. On entend que 80% de la législation française est issue des diktats de Bruxelles. Et puis, quand on écoute d'autres endroits, un petit peu plus calme, un peu moins polémique, on dit, mais non, restons calmes, c'est 15% de la législation française qui vient de Bruxelles. Alors, je voudrais avoir votre point de vue, là, à tous là-dessus. Le modem, ce qu'on a, est-ce que vraiment, la législation européenne, quelle est sa proportion quand on dit le Parlement français ne fait que transcrire telle ou telle directive? Quelle est la proportion de loi?
Alors, pour le modem, moi, j'aimerais quand même préciser que, on a quand même tous une responsabilité en France hein, sur le fait que l'Union européenne ne fonctionne pas, mais j'ai pas l'impression qu'on veuille que ça fonctionne. Je m'en explique tout simplement parce qu'on a l'impression que nos institutions européennes fonctionnent comme nos institutions françaises, que les clivages politiques tels qu'ils existent en France, droite-gauche, devraient se reproduire au niveau de l'Union européenne. Moi, je tiens quand même à préciser que y a quand même quelque chose qui est important dans la culture des députés européens. Et là, je pense en particulier à Anne Lapérouse, notre députée sortante, qui m'explique que quand il travaille sur des textes, forcément, vous avez un point de vue qui est peut-être lié à une autre culture, on va dire, française, mais quand vous travaillez avec un Espagnol, quand vous travaillez avec un Tchèque, forcément, on n'a pas tout à fait les mêmes points de vue. Donc, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le discours, hein, droite-gauche, c'est aussi cette dimension-là, c'est de faire croire aux Français qu'on a cette opposition droite-gauche, on a au Parlement européen une culture du compromis. Et moi, j'en suis ravie. Et pour répondre à monsieur tout à l'heure, à propos de l'Union européenne, pour moi, c'est une réussite, l'Europe. C'est une réussite parce que j'ai la chance d'être en paix, de vivre dans un pays qui soit en paix, alors qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu la guerre de 1870, celle de 14, celle de 39-45, etc. Il ne faut pas oublier que les pères fondateurs de l'Europe ont eu comme volonté de faire travailler des gens ensemble sur le plan économique afin qu'ils puissent discuter et donc empêcher ces guerres. Donc moi, je tenais quand même à le signaler.
Ils parviendront peut-être à le faire en Yougoslavie, par exemple. Parce que quand on parle de paix en Europe, il faut...
Mais c'est le prochain enjeu.
Les grands pays sont mis à l'abri, tant mieux.
Il est évident que les États des Balkans, hein, un certain nombre d'États devraient rentrer dans l'Union européenne. Il y a déjà des discussions en cours. Quant à la Turquie, les négociations sont quand même engagées depuis 2005. Depuis 1949, Turquie appartient au Conseil de l'Europe.
Finie ou pas, voilà. Ça, on devrait terminer par ça. En plus, il y a des évocations de la Méditerranée, etc. Donc, on aura ça après. Ben, on aura ça justement dans notre troisième partie.
Quand j'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur, de vivre
vivre là-haut entre ces deux fleurs. Les yeux béants restés rivés sur les couleurs d'un arc-en-ciel. J'avais la bouche en forme de cœur, j'embrasse une vie au goût de miel. C'était un monde imaginaire. Je croyais même aux bons hommes verts et aux petits lutins. Matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. J'ai fait mon sac, mon baluchon, j'ai pris mes feutres et mes crayons. À chaque problème, sa solution, je n'avais qu'une seule ambition, celle de chanter la vie des autres. J'ai fait ce choix d'être des vôtres et de penser les plaies des uns. Je n'attends plus ce bel apôtre, et si le destin choisit le bien, je ferai ce que je pense et ce qu'il me plaît, en faisant vivre ce doux espoir. Quand d'autres exploitent le désespoir qui plane sur l'être humain. Matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi? Ces vieilles photos, ces lourds émois que j'ai classés par utopie. Si tu entends aussi cette voix, c'est qu'on est tous un peu comme toi. Le bel enfant s'est endormi dans le train-train de la petite vie. La belle Alice nous a menti sur les merveilles de son pays. À mes idées, je reste fidèle. Car après tout, la vie est belle, mais on verra demain. Matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. Passe à ton voisin.
Je vais quand même donner au vert.
Et passe à ton voisin.
Donc on reprend la suite de Tableauval pour notre troisième partie, un Tableauval exceptionnel puisque on reçoit aujourd'hui 9 représentants des listes candidates au Parlement européen, pour l'UMP Aurélien Pradier, pour le Parti Socialiste Pierre Pantanella, Europe Écologie Marie-Claude Carlin, Mouvement Démocrate et Émilie Tessel-Julien, le Front de Gauche Guillaume Sériès, Libertas Marie-Francine de Pierrepont, le Front National Serge Larose, Lutte Ouvrière Sandra Torrimocha, pardon, et le nouveau parti anticapitaliste Maxime Gaillac. Avec nouveau parti anticapitaliste, ça permet de se remettre dans, au pas, c'est, parce que sinon NPA. On, voilà. Donc, avant d'aborder le sujet que j'évoquais, qui était de se demander est-ce que l'Europe était finie, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'utilité de ce Parlement, et la représentante des Verts m'a fait observer que effectivement j'avais un peu châté sa part. Alors, Marie-Claude Carlin, l'utilité de ce Parlement, qu'est-ce que vous en avez fait, vous, les Verts?
Moi, je trouve que là, on a un débat qui est passéiste, on repasse et on ressasse l'histoire du traité de Lisbonne, on est à 6 jours des élections, et ce qui est important dans le débat, moi je suis très contente d'y participer, c'est que justement donner envie aux gens d'aller voter. Et pourquoi il faut aller voter? Parce que justement, on n'est plus sur un territoire uniquement, que vous le vouliez ou non, le Front National, on n'est plus uniquement sur notre territoire souverainiste, mais on est maintenant, c'est fait au milieu de 27 pays. Donc il faut savoir pourquoi le Parlement aura beaucoup plus de pouvoir qu'on ne croit, parce que justement, il est en train d'impulser toute la législation européenne. Et là maintenant, parler de Lisbonne, alors qu'on a affaire à une crise sans précédent, une crise qui est à la fois financière, économique, écologique, on est à un bord d'un gouffre financier, Et on reparle encore de ce qui était le nom. Maintenant, finissons-en. Nous, justement, les Verts, on a une thèse de liste qui était pour le non. L'ancien sortant, il était pour le oui. Et pourquoi on est ensemble pour changer l'Europe? Je disais tout à l'heure que nous voulions une constituante, justement, pour changer l'Europe, pour changer la Constitution. Mais ensuite, il faut que...
C'est-à-dire aussi une réforme du traité de Lisbonne, quand
mais
même.
Tout à fait, bien sûr. Donc, on rejoint ça, là. Mais bien sûr.
Il n'est pas encore en train d'application. Il demandait son application.
Donc, il faut refonder l'Europe. Il faut refonder l'Europe. Et là, par exemple, toute la politique agricole commune, vous ne pouvez pas dire que l'Europe n'a pas de grande importance. C'est elle qui, depuis 50, c'est là que l'Europe a eu une utilisation la plus avancée. Bon, maintenant...
Dit qu'on a ruiné l'agriculture avec
mais
l'Europe.
Je suis pas
et
tout à fait
notre solution attendez, pour
attendez.
Les chiffres sont exacts, oui. Nous sommes passés non, de 6 millions.
Nous voulons justement une autre politique agricole commune.
Le voilà. Monde entier
parce que au départ
non, mais s'il n'y avait pas la PAC aujourd'hui, oui. Vous en seriez à combien cher monsieur? Mais c'est facile de dire. Aujourd'hui, le Parlement européen, c'est 43%. 43% du budget européen. Écoutez, c'est l'aide aux agricoles.
Écoutez, la PAC...
Je vais vous dire quelle est notre politique agricole. De même qu'on a inventé un SMIG pour protéger le salarié contre des excès du patronat, nous sommes pour des prix minima garantis. Il n'est pas normal qu'on achète du lait à n'importe quel prix, du blé, des pommes, etc. J'ai des exemples, ça s'est passé à la télé souvent, je connais des exemples de pommes qui sont achetées et vendues 10 fois au supermarché d'à côté, c'est un scandale. Même chose pour le poisson, etc. Nous sommes pour un SMIG, puisqu'un SMIG ça concerne les salaires, des prix minima imposés. Et bien entendu, une protection aux frontières. Nous sommes protectionnistes. Nous pensons qu'un gouvernement doit protéger son pays. Oui, ça nous paraît évident. Un protectionnisme raisonné. C'est-à-dire que, par exemple, avec la Suisse, qui est un très bon client, qui achète autant aux Français que les Français achètent aux Suisses, bon, nous n'avons pas besoin de mettre des droits de douane. Avec des pays communistes, comme la Chine, n'est-ce pas, où vous avez des salaires de 10 fois, 20 fois moins élevés que chez nous, eh bien, un libre-échange
vous
est
croyez
évidemment une aberration.
Écoutez, la politique agricole commune, elle a permis, après la guerre, oui, de rendre l'Europe,
autosuffisante.
Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on pollue le débat avec le monsieur du Front National.
Maintenant, c'est dépassé. Mais maintenant, c'est dépassé. La politique agricole commune maintenant est dans le mur. Il faut refaire une autre politique agricole contre le productivisme qui a sévi et qui a détruit des écosystèmes, qui a détruit les petits agriculteurs. Il y a un agriculteur qui s'en va tous les 20 minutes à peu près en Europe. Donc il faut restaurer une agriculture paysanne, biologique s'il le faut, une agriculture qui nourrisse sainement et non pas qui produit des cochonneries, une agriculture qui ne dépend pas de l'industrie agroalimentaire, et justement on vient de voir la crise du lait, et là nous soutenons tout à fait ces petits producteurs de lait qui demandent d'être rémunérés correctement. Et c'est là qu'il faudra aussi que le Parlement européen légifère contre les lobbying, qui est pratiquement une institution auprès du Parlement, où ce sont les firmes agroalimentaires chimiques, etc., qui arrivent à faire la loi. Donc ça doit absolument changer.
Alors je voudrais, puisque... Oui, monsieur Sériès.
Non, je vous laisse poser votre question.
C'est sur les limites. Parce que est-ce que cette Europe est finie? Et vous avez eu qu'à dessein, je ne pose pas la question d'un pays en particulier. Parce qu'il y a plein de pays qui prétendent adhérer. Il y a l'Islande, la Norvège a toujours refusé, mais sait-on jamais. Il y a l'Ukraine, il y a la Moldavie. C'est incontestablement des pays qui sont en Europe. Alors, quelles sont les... C'est ma question. Quelles sont les limites? Est-ce que l'Europe a des limites?
Vous avez oublié la Turquie quand même, parce que ça fera plaisir.
Tout le monde ne parle que d'elle, mais il y a d'autres pays en Europe. On a parlé de l'ancienne Yougoslavie, il y a que la Slovénie qui a adhéré jusque-là, la Suisse aussi.
Je réponds pour le Front de Gauche, je réponds aux deux questions, la précédente à laquelle je n'ai pas répondu et celle-là, la précédente sur la proportion de lois qui viennent de l'Europe. Alors, il y a un débat, c'est 70 ou 80% des lois votées par les parlements français qui sont des transpositions directes de directives européennes. Et deuxièmement, 100% du droit français doit être conforme au droit européen. Bon, donc je m'inscris en faux par rapport à ceux qui disent que l'élection au Parlement européen ne sert à rien. Parce que les enjeux de la réalité sociale et économique dans notre pays, comme dans tous les pays d'Europe, dépendent très fortement du droit européen. Et... à l'occurrence, j'y reviendrai ensuite peut-être sur le SMIC. Je réponds simplement à l'UMP tout à l'heure qui disait qu'il ne voyait pas l'intérêt d'augmenter les SMIC dans les pays.
Ça. J'ai dit que c'était une utopie et que vous le balanciez
C'est peut-être une utopie. Toujours est-il que si on veut sérieusement lutter contre la baisse du pouvoir d'achat pour les salariés dans tous les pays d'Europe, si on veut sérieusement pouvoir lutter contre les délocalisations, il n'y a pas d'autre moyen que, petit à petit, d'augmenter les niveaux de vie, les niveaux sociaux, les niveaux de fiscalité dans les pays, en particulier entrant de l'Est. Il n'est pas étonnant que des chefs de grands groupes qui cherchent uniquement à faire du profit aillent implanter des usines là où il n'y a pas de SMIC. Il n'y a pas besoin de faire des études de sciences économiques pour le comprendre.
Non, mais ça a pendant un temps un peu réussi à l'Irlande, par exemple. Alors, est-ce que ça ne va pas réussir à la Roumanie?
Non, mais justement, la question, on aide ces pays pour leur construire des routes, par exemple. Il faut qu'il y ait une contrepartie qui doit être l'augmentation des niveaux sociaux, tirer vers le haut les régimes sociaux, les régimes fiscaux. Voilà ce qu'il faut faire. Quand je dis que c'est des lettres au Père Noël, quand j'entends certains dire ce que je viens de dire, c'est parce que pour appliquer dans la réalité ce que je viens de dire, il ne faut pas appliquer le traité de Lisbonne. Certains, c'est écouter ce que je dis, mais regarder surtout pas ce qu'on peut faire.
Donc, le vrai problème,
il faut faire tout cela. Pour cela, il faut refuser l'application du traité de Lisbonne et le déni de démocratie qui constitue ceux qui veulent l'appliquer. Et je réponds à votre question sur l'élargissement. Le problème de l'élargissement et des frontières de l'Europe, ce n'est pas d'accepter ou non ces pays. Par exemple, sur la Turquie, ce n'est pas de vouloir ou non de la Turquie pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses. La question, le problème, c'est l'Europe. Oui à la Turquie, en Europe par exemple, mais à une condition. C'est que ça se fasse sur des bases d'approfondissement politique et d'approfondissement sociaux. Si la Turquie doit entrer en Europe, simplement...
Mais pourquoi l'Ukraine et la Moldavie ne vous intéressent pas?
Mais l'Ukraine et la Moldavie, exactement la même chose. Si c'est pour avoir 100 millions de travailleurs en plus qui viennent en Europe avec des salaires qui sont 10 fois inférieurs au salaire moyen, par exemple, de la France... Non, c'est trop vite, parce que ça va aboutir qu'à une chose, c'est à augmenter la concurrence féroce entre les salariés des pays européens. Voilà ce que veut faire la droite, mettre en concurrence les salariés des pays européens pour faire baisser les niveaux sociaux. Donc non à l'entrée de ces pays, tant que nous n'avons pas approfondi politiquement l'Union européenne, tant qu'un minimum de principes démocratiques ne sont pas mis en œuvre, et tant que l'on n'harmonise pas la législation sociale.
Alors la meilleure façon d'empêcher la concurrence entre travailleurs, c'est au contraire qu'ils fassent partie d'un même ensemble économique, d'une part. D'autre part, je tiens à préciser, quand je dis le Parlement européen n'a pas de pouvoir, je ne dis pas qu'il ne sert à rien. Pour moi, le Parlement européen, c'est un petit peu comme le Parlement français, c'est-à-dire c'est une institution qui se veut démocratique, mais qui ne prend pas véritablement les décisions, même y compris au niveau national. Quand est-ce que vous avez vu que c'est au Parlement que se décident des licenciements aujourd'hui? Comment on a vu...
Ça, c'est pas des lois, les licenciements.
Eh bien, justement, mais les lois aujourd'hui, elles sont faites en fonction d'une minorité de capitalistes qui décident réellement de tout ce qui se passe dans la société.
Ceux qui ont envoyé à l'Assemblée nationale les députés, ce ne sont pas une minorité de capitalistes.
Et oui, parce que ce sont eux les responsables de la crise.
Vous êtes la représentante des travailleurs, les autres sont les représentants des feignants, je suppose.
Bon, l'UMP.
Ça, je vous laisse votre jugement. Je tiens...
Au Parti Socialiste, on est les représentants des Français.
Simplement.
Alors,
des feignants et des travailleurs.
Donc, je pense que le Parlement européen peut servir de tribune, comme toutes les institutions, puisque là où les travailleurs ou les salariés peuvent envoyer des représentants, ce sont des occasions à saisir. Donc, ce n'est pas parce que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir que voter à ces élections n'a pas de sens. Au contraire,
alors, moi, je crois que le Parlement ne doit pas être une tribune, mais un lieu de travail pour faire évoluer la société. C'est vachement différent.
Moi, je crois que votre discours est dangereux parce que vous niez justement l'importance des organisations démocratiques.
Je nie pas.
Vous ne voyez que le pouvoir dans la rue. Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de pouvoir dans la rue. Je suis pour aussi les manifestations, etc. Mais il y a quand même aussi des instants démocratiques au-dessus des partis, et il y a des constitutions, il y a un parlement, et là il y a un travail qui se fait. Alors si vous dites que le parlement c'est justement une tribune, c'est juste une tribune, là je crois que vous allez trop loin.
Je voudrais revenir sur cette Europe finie ou pas finie et ses limites, et le paradoxe qui vient de nous être exprimé, à savoir que l'Ukraine et la Moldavie en dehors, eh ben on utilise quand même leurs travailleurs, et l'Ukraine et la Moldavie dedans, ça serait redoutable parce que on aurait leurs travailleurs à l'intérieur. Alors je voudrais savoir si l'UMP a une petite idée sur cette limite de l'Europe, et puis après je demanderai à tout le monde de toute façon, mais comme on a parlé des politiques mises en œuvre, je voudrais pour l'instant entendre l'UMP.
Oui. On a une petite idée, effectivement. Ce qui me semble important dans cette question-là, c'est de l'aborder avec beaucoup de sérénité. Lorsqu'on parlait de la Turquie en particulier, pendant longtemps,
le seul sujet.
Non, non,
Turquie,
non, ça ne me travaille pas, mais parce que ça intéresse.
La Moldavie, elle m'intéresse.
Ok, mais écoutez, je vais vous parler de la Turquie et nous parlons de la Moldavie après. Simplement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et je pense qu'on peut se permettre d'en parler. C'est un sujet aussi qui laisse beaucoup de caricatures, une fois de plus, pardon de prononcer ce mot-là. Mais je pense qu'on peut se donner la discipline de dire aujourd'hui, et c'est ce que la liste de Dominique Baudis et à l'UMP nous disons, nous sommes contre l'entrée de la Turquie en Union européenne, pour une seule et stricte raison, une seule,
possible,
qui est une raison géographique. La géographie n'a pas placé la Turquie en Union européenne. En revanche, si vous permettez que je termine, et puis je pense que vous aurez tout le loisir de répondre après. Au-delà de ça, tout à l'heure, on avait une discussion intéressante qui consistait à dire sur le SMIC européen, l'objectif. Et d'ailleurs, c'est une des missions premières de l'Europe, et de pousser une grande partie de l'humanité vers le haut. Et ça passe effectivement par les progrès sociaux. On avait donc cette discussion, sur le représentant de Mélenchon, qui consistait à dire harmoniser les SMIC européens pourra sortir de la misère certains pays qui y sont aujourd'hui. Et de notre côté, je viens d'entendre à l'instant, si j'ai bien compris, qu'on ne souhaitait pas que ces pays rentrent dans l'Union européenne parce que ça allait trop vite. Alors il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on nous parle franchement, et il faut se parler franchement. Le SMIC européen, quand bien même il serait possible, parce qu'il y a le problème légal, mais il y a aussi le problème financier, je m'excuse d'aborder cette question-là, mais ça coûte un petit peu d'argent, et je sais bien que vous avez les trésors. Oui, oui, que vous avez les trésors mystérieux, mais enfin, ça pose une certaine difficulté. Mais je pense pas, que pousser un pays vers le haut, ce soit nécessairement, à un moment donné, le traiter comme on a pu traiter par le passé certains pays voisins avec une espèce de sentiment colonialiste et supérieur, qui consiste simplement à leur faire un chèque. L'objectif, il est simple.
Je sais pas de
l'objectif, quoi vous parlez. Non, mais l'objectif, je sais à peu près de quoi je parle. L'objectif, il est l'objectif d'un dialogue de culture. Et Dominique Baudis, président de l'Institut du monde arabe, c'est à peu près de quoi il parle quand il parle de ça. Et je vais vous dire une chose simple. Et je terminerai sur ça.
Question de droits sociaux.
Non, mais excusez-moi de considérer.
Si vous voulez juste faire une Europe de petits blancs catholiques, dites-le. Non, mais la question, c'est pas la culture. La question, c'est les droits sociaux.
Je veux bien que vous me preniez pour un raciste un moment, mais il me semble pas avoir prononcé un seul moment ça. Je veux bien que ce soit une phrase que vous ayez peut-être à placer, mais j'ai jamais parlé de ça et je pense que vous êtes loin de ne pas me traiter de raciste. Ça me paraît le minimum que je puisse faire, d'avoir autant de respect que j'en ai pour vous. Sur cette question-là, nous, la question de la Turquie, et je conclue, elle est très simple. Non à l'entrée de la Turquie, oui à une discussion avec la Turquie. Parce que l'objectif est que ce pays qui bafoue les droits judiciaires, qui a un système social largement archaïque, puisse être tiré vers l'eau. C'est l'objectif. Et la gauche, le Parti Socialiste, qui va ensuite nous répondre en nous disant que dire oui à l'entrée de la Turquie, c'est juste une mission de générosité, nous mente. Parce que c'est de la démagogie pure et simple. La générosité, elle n'est pas simplement de dire à un pays, oui, nous voulons que nous rentrions. La générosité, elle est de discuter avec lui ce que nous faisons aujourd'hui.
Par la bouche de Monsieur Pantaner. Est-ce qu'on pourrait parler de l'Ukraine? Parce que, c'est parce que c'est la même surface et un peu la même.
Tout à fait, mais je vous parlerai pas de la Turquie, mais je prendrai la Turquie en exemple, parce que ce qu'on fait pour la Turquie, je pense, il faut le faire à tous les pays et tous les peuples. Aujourd'hui, moi, j'ai la prétention de dire que ce que je viens d'entendre est un mensonge. L'UMP, aujourd'hui...
Vous avez beaucoup de prétention.
Non, mais attendez. Et j'explique pourquoi, en plus. La Turquie, aujourd'hui, il y a une négociation qui se fait sur 35 points. Pendant que le chef d'État, M. Sarkozy, était président de l'Union européenne, il a ouvert 2 points de discussion. Alors moi, j'ai la prétention de dire que quand on ne veut pas qu'un pays rentre à l'Union européenne, on a au moins l'honnêteté envers ce pays de leur dire, eh bien écoutez, on ne veut pas travailler avec vous, vous restez en dehors, et on plie la discussion. Après que l'on travaille à travers un pacte, à travers...
Mais on ne discute pas pour la rentrée.
Comment vous pourrez... sur les 35 points, s'ils se mettent d'accord, la reconnaissance du génocide arménien, je suis pas sûr qu'ils le reconnaîtront. Mais admettons que tous les 35 points se mettent au vert, comment après ça, vous pourrez dire à un pays, à un État, à des gens, de dire, écoutez, vous répondez aux critères comme vous avez défini, mais vous restez chez vous. Je crois que c'est une honnêteté intellectuelle, et ça, malheureusement, l'UMP, vous l'avez pas.
L'honnêteté intellectuelle, elle consiste à dire, pour répondre sur ce point, que les discussions qui sont engagées, elles n'aboutiront pas nécessairement à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Elles sont des discussions. Moi, je m'excuse, mais quand je vais acheter une voiture, que je discute, je me sens pas nécessairement obligé au final de l'acheter, cette voiture. La discussion qu'on a aujourd'hui, elle est simplement un dialogue de culture parce que nous n'avons pas le droit, nous, Européens, avec les valeurs que nous défendons, de laisser la Turquie sur le banc de touche. Mais je ne vous laisse
pas
renvoyer la position
de l'autre. C'est pas vrai.
Nous sommes contre l'entrée de la Turquie.
Pour la rentrée de
pas du tout. Eh bien, je me permets d'avoir la prétention que vous avez de dire que vous mentez.
Je voudrais entendre le modem sur les limites de l'Europe. Les limites de l'Europe, est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il faudrait lui en fixer? Et si elle doit encore connaître des extensions, vers qui on peut se tourner?
Alors les limites, bon, pour reprendre ce qu'on dit, un certain nombre de personnes, il y a des pourparlers qui sont engagés avec des États. Bon, il faut que cela continue, même si on peut se poser des questions tout à fait légitimes sur les nouvelles entrées. Nous, les limites, c'est d'abord des limites internes, c'est-à-dire que toutes les réflexions qu'on mène à l'heure actuelle, c'est plus vers un approfondissement plus qu'un élargissement à l'heure actuelle, même s'il n'en ferme absolument pas les portes, mais un approfondissement de la citoyenneté européenne, de cette conscience européenne qui nous semble importante. Voilà ce que je peux dire à propos des limites. Maintenant, on peut en discuter. La question, est-ce que c'est des limites physiques? Est-ce que c'est des limites? Les limites, on les rencontre tous. Le village d'à côté, c'est déjà une limite. Pour moi, c'est pas un débat. Mais à terme, il est tout à fait envisageable qu'il y ait des nouveaux États qui arrivent au niveau de l'Europe. Mais à partir du moment où on se retrouve sur des valeurs communes, les droits de l'homme ont été évoqués tout à l'heure, la volonté de travailler ensemble, moi je crois qu'il y a quelque chose d'important. L'Union européenne, le but c'est quand même pouvoir être un interlocuteur à l'échelle de la planète. Moi je ne conçois pas à l'heure actuelle, et le mouvement démocrate ne conçoit pas à l'heure actuelle, la France pouvoir dialoguer avec les grandes puissances internationales. Il y a des choses qui nous gênent. Moi, je pense en particulier à la venue du Dalai Lama. On aurait pu avoir une position commune. Et il ne faut pas perdre de vue aussi, je crois qu'on le souligne pas assez, c'est que à l'extérieur, les États-Unis, la Chine en particulier, pour évoquer les grandes puissances, ont tout intérêt à ce qu'on soit divisé. Si on prend l'exemple du Dalai Lama, c'est très net. Pourquoi est-ce qu'en Allemagne ou en Angleterre, on le reçoit, il n'y a pas de difficulté? En France, on rencontre des difficultés avec la Chine. Donc je crois que de temps en temps, il faut aussi changer de point de vue et essayer de voir à l'extérieur de l'Europe comment l'Europe est perçue. Et l'Europe est quand même identifiée comme un partenaire à l'échelle de la planète.
Alors, pour parler des limites...
Non. J'aurais voulu entendre Libertas, parce qu'il vient d'être dit des choses, justement.
Oui, ben, Libertas, c'est très clair. Nous étions 6 à l'Europe pendant longtemps, puis 12. Ça ne marchait pas si mal. On est passé à 15 et très rapidement à 27. Alors, il faut savoir où on va. Il faut savoir si on veut qu'une Europe soit debout, soit efficace, soit constructive, ou si on veut faire une Europe mondiale. Ce n'est pas compliqué. Que je sache, j'étais quelque peu à l'école, on m'a appris que la Turquie, c'était l'Asie mineure. Bon. Que l'Afrique, que le Maroc, que je connais très bien, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'était l'Afrique. Et puis je crois aussi que Israël, la Syrie, le Liban, l'Égypte, tout ça, c'est pas l'Europe. Donc,
ça n'empêche pas les interventions des armées européennes dans bien de ces pays.
Il faut absolument qu'on arrive à bien faire ce qui est en train de se faire si on veut ne pas aller à l'échec. Parce que si c'est pour avoir que des contraintes, que payer pour les autres, que avoir des contraintes de toutes sortes, alors on se retrouve avec le bien-être animal, Natura 2000, un super Natura 2000 qui est en course, on se retrouve avec le problème du lait, avec le problème du foie gras, avec le problème du roquefort, n'en parlons pas.
Du rosé.
Et du rosé. Le rosé, je vous rejoins votre idée. Ce sont bien les lobbying internationaux et les grosses structures qui, parce qu'il manque du rosé dans le monde, ont obtenu de l'Europe qu'on puisse faire, à partir du 19 juin, puisque le vote sera le 19 juin, qu'on puisse faire du rosé en mélangeant du blanc de mauvaise qualité avec un peu de rouge, et éventuellement d'importation hors frontières européennes. Que faisons-nous de tout notre savoir-faire des viticulteurs du Gaillac, du Fronton,
du Cahors,
du Jurançon et compagnie, et de tous les pays proches de la Méditerranée, tous les pays, j'entends, pays de vin. Donc, voilà. Si c'est ça qu'on nous promet, le Roquefort, mais évidemment le Roquefort, vous savez qu'à partir de 2012, je crois, va falloir marquer dessus nuit à la santé, parce que c'est fait avec du lait.
Le Roquefort, j'ai fait partie de la délégation qui est allée voir l'ambassade.
Mais je suis bien d'accord
donc
avec
je suis quand même au courant et je l'ai défendu comme beaucoup d'élus.
Je ne suis pas contre, j'ai dit qu'on a besoin d'une Europe.
Je crois que l'Europe, c'est un sujet important.
Qui soit
mais j'ai cru comprendre de ce qui se disait autour de la table à propos.
Et c'est pas Barnier qui l'a défendu.
De ce qu'il se disait à propos des limites de l'Europe, qu'il fallait un temps d'adaptation et de digestion à l'Europe portée à 27. Est-ce que les Verts, c'est votre avis?
Alors nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, partisans d'étendre l'Europe au maximum. Mais justement, je rejoindrai quand même une partie de ce qui a été dit, dans la mesure où si c'est pour faire une Europe ouverte, libérale, ouverte, hein, absolument au diktat des firmes, et en particulier agroalimentaire, je disais tout à l'heure, etc. Non, c'est-à-dire que nous, c'est une Europe qui doit être une Europe qui soit approfondie, je rejoins ce que vous avez dit, hein, approfondie, et qui ne permette pas le dumping social. Parce que justement, ce qui a été fait jusqu'ici, c'est qu'on a étendu l'Europe. On peut dire que c'était quand même au départ pour pouvoir mettre en concurrence, comme ça a été dit, les travailleurs. Donc, il faut absolument avancer prudemment pour que on change ce type d'Europe. Ce n'est pas celle-là que nous voulons.
Je voudrais juste dire deux mots et pour permettre aux uns et aux autres de rebondir. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on évoque les travailleurs qui rentrent en Europe. Il y a un pays qu'on a appelé longtemps le passager clandestin de l'Europe, qui était l'Irlande. Ça a été un peu la Roumanie à une époque. Et puis, l'Europe l'a amené à la prospérité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils sont un peu trop nombreux, mais est-ce que ça n'est quand même pas une ouverture et un espoir? Maintenant, je vous redonne la parole.
Alors, pour parler, on peut parler de l'Irlande, si vous voulez, je reviens sur ce que vous venez de dire, et après, je dirai ce que je pense des limites véritables de l'Europe. Alors, il y a eu quelques exemples, l'Irlande ou l'Espagne, où effectivement, rentrer dans l'Union européenne a permis un certain nombre d'enrichissements. Mais qui s'est enrichi? Ça enrichit les grands groupes immobiliers, ça enrichit les grands groupes du bâtiment, ça enrichit ceux qui ont profité d'une main-d'œuvre qui n'était pas chère, puisque si vous regardez la réalité des chiffres du chômage, c'était un chiffre qui était très bas, mais avec beaucoup de précarité, un taux de précarité très grand. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Espagne est un des pays qui justement paye le plus cher la crise pour l'instant, puisqu'il y a 4 millions de personnes au chômage, c'est 18% de la population active, et ce ne sont que des chiffres officiels, avec des prévisions bien sombres. Donc on voit bien que l'entrée dans l'Union européenne n'a pas réglé les problèmes. Et ce que je constate, c'est que là encore, les limites, les véritables limites, ce sont des limites sociales. Parce que je veux bien qu'on mette des critères de droits de l'homme pour l'entrée de la Turquie, mais manifestement, ça ne gêne pas que dans l'Union européenne, le droit des femmes ne soit pas respecté, que la Pologne, que l'Irlande, que Chypre, que Malte ne reconnaissent même pas l'interruption.
Que les camps de concentration qui existent en Turquie sont pas.
S'il vous plaît, vous parlerez après. Je vous ai laissé parler tout à l'heure, y compris quand vous avez parlé d'harmoniser les droits sociaux vers le haut. Je crois que vous avez oublié que l'UMP, c'est ceux qui sont en train de démanteler tous les droits sociaux.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça.
Pourtant, vous êtes bien placé pour.
Alors, je vais pas être dans la rue, c'est moi.
Ah ben écoutez, je suis monsieur. Alors là, attendez, je suis sur le terrain.
Les limites.
Jours, pas besoin d'être dans
donc
la
les limites aujourd'hui.
Oui, mais moi je suis aussi un travailleur.
Les limites de l'Europe aujourd'hui, ce sont des limites sociales et politiques aussi, puisque je constate que là encore, face à la crise, quelle a été la seule mesure prise indépendamment par chaque État national. Là encore, ça montre bien que cette construction européenne est bien laborieuse. Ça fait 50 ans qu'elle dure et que ça, c'est encore
c'est
une
peu
fois,
50 ans à l'échelle de l'histoire de l'humanité.
En tout cas, les travailleurs, ils n'ont pas le temps d'attendre. Et donc, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la gestion de la crise par ces différents pays et au niveau donc de ceux qui sont dans l'Union européenne, ça a été de trouver des milliards pour aider les banquiers en vidant les caisses publiques et en disant qu'il n'y a plus rien pour les services publics. Alors, justement, cet Europe-là, bien sûr, on n'en veut pas et je crois que c'est l'occasion de se prononcer pour dénoncer à la fois la politique qui est menée en France, mais aussi en Europe, puisque globalement, on constate que c'est la même. Et donc, le vote pour Lutte ouvrière, c'est un geste très clair le pour dénoncer point. Cette dictature
le des nouveau parti anticapitaliste, européens. Rapidement oui, sur les limites.
Sur les limites de l'Europe. Moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu avec les représentants des différents partis. C'est de quel droit est-ce qu'on va décider du destin du peuple turc? De quel droit est-ce qu'on va décider du destin du peuple ukrainien en leur disant, vous, on vous prend pas dans l'Europe, vous, on vous prend? De quel droit est-ce qu'on va décider pour des millions et des millions de personnes? Nous, oui, on est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Bien sûr, si le peuple turc est d'accord, on est pour qu'ils intègrent l'Europe. Mais l'Europe d'aujourd'hui, et je rejoins la camarade de Lutte ouvrière, c'est des limites sociales. Voilà. Donc, les limites de l'Europe, je veux dire, nous, on se veut internationaliste. Donc,
le
effectivement.
Parti socialiste est pour l'entrée de la Turquie, c'est le répond aux 35 critères.
Bien sûr.
C'est clair.
Bien sûr.
Je suis d'accord. Voilà. Nous, on est pour l'entrée de la Turquie. Pourquoi? Pourquoi?
Attendez. Moi, je voudrais entendre le modem. On va faire qui est pour l'entrée de la Turquie. Au micro de CFM.
Oui. Mais le modem est pour l'entrée des États qui souhaitent partager le projet commun dans l'Union européenne. Donc, Turquie, autres pays, c'est pas une question, il n'y a pas une question, voilà,
c'est pas du tout,
j'ai peut-être pas été très claire tout à l'heure,
au-delà de l'Europe.
C'est un projet commun, l'Union européenne, c'est d'abord un projet commun, c'est pouvoir mettre ensemble des progrès. On a évoqué les droits des femmes tout à l'heure au niveau du mouvement démocrate. Nous, on propose que les droits les plus favorables dans les pays européens soient étendus à tous les pays européens. C'est ce qu'on appelle la clause de l'européenne qui soit étendue à tout le monde. Et c'est vrai que notre idée, c'est justement quand il y a des droits qui sont meilleurs ailleurs, essayons de voir si on peut les étendre. En même temps, l'Europe ne peut pas tout. On n'a pas évoqué le principe de subsidiarité. Il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est parce qu'il y a l'Europe qu'il y a des choses qui ne se décident pas à l'échelle des États. Il faut que les décisions qui soient prises à l'échelle de l'Europe aient un intérêt européen. Il y a des petites décisions au niveau des échelles des États sur lesquelles l'Europe n'interviendra pas. Et heureusement, on a assez critiqué l'Europe par rapport à toutes ces normes.
À partir du moment où il intervient sur les rétroviseurs et le roquefort, on peut quand même s'inquiéter de savoir ce qu'est une petite décision.
Non, mais il est intervenu sur le roquefort pour défendre et pour dire à l'Amérique
par rapport au bœuf aux hormones,
aux 300 et en contrepartie vouloir l'entrée du bœuf aux hormones
ou du poulet chloré,
c'était pas acceptable. C'était pas acceptable. Voilà ce qui est. C'est oui, entre un produit AOC de qualité et d'un savoir-faire comme on a en France et notamment dans l'Aveyron, on ne peut pas accepter, moi c'est ce que j'ai dit à l'ambassadeur, c'est ce que j'ai dit, on ne peut pas accepter en gros de la merde.
Monsieur Larose, sur les limites de cette chose que vous souhaitez voir exploser, quoi, si j'ai bien
non,
compris.
Non, pas exploser, non.
J'ai mal compris.
Nous sommes européens, la Suisse, nous ne sommes la Belgique, pas contre l'Europe, de même je l'ai dit que les Africains ne sont pas contre l'Afrique, etc. Bien, l'Europe que souhaite le Front National, je l'ai dit, vous le savez, les auditeurs le savent, c'est une Europe des nations, des patries, des pays qui sont libres, souverains, indépendants. Dans ce cadre-là, il y a place pour tous les pays qui sont effectivement européens par l'histoire, par la géographie, par la culture. Mais nous sommes, je pense que nous sommes les seuls ici, je suis le seul, à représenter ceux qui ne veulent absolument pas de la Turquie et du Maghreb dans l'Europe pour des raisons historiques, géographiques et, on a dit le mot religieux, parce que l'islam, nous sommes contre l'islamisation de la France au Front National, parce que l'islam est incompatible avec les valeurs de notre civilisation.
C'est une religion, une république
l'islam,
laïque.
C'est une religion, mais c'est aussi un code civil.
Non, mais la Turquie laïque, la Turquie laïque.
La France est laïque également.
Ah, il faudra regarder.
La Turquie, la France se sont
laïques. Par contre, l'intégrisme catholique est tout à fait compatible avec vos soi-disant valeurs.
L'intégrisme catholique met des bombes partout, c'est très dangereux, effectivement, vous avez raison.
Non, mais en fait, c'est peut-être pas.
Oui, ils assassinent, par exemple, des médecins qui pratiquent l'avortement aux États-Unis.
Oui, ils sont assassinés, ils sont mis dans des camps, tout à fait.
Je voudrais m'excuser,
moi, parce que je trouve qu'il y a un débat.
Un camp de concentration. Non, je dis, on va pas.
Mais attendez, le camp de concentration, qu'est-ce que vous avez?
Allez, exprimez-vous.
Non, mais là, on n'est pas.
Mais écoutez, monsieur, attendez, qu'est-ce que c'est que les camps de concentration
ici? On connaît depuis des années les propos haineux du Front National et je pense que.
Jean-Marie Le Pen a été un résistant. François Mitterrand a été. Si, c'est reconnu, il a ses papiers.
D'ailleurs, il y a perdu.
François Mitterrand a été ministre de Vichy, du maréchal Pétain. Voilà, ça, c'est pour vous remettre un fait historique. Si vous permettez, monsieur le représentant du Parti Socialiste, C'est assez sympa d'ailleurs parce que vous riez, tout ça. Puis mais, pour beaucoup de choses, je suis d'accord avec les autres. Apparemment, vous ne serez pas d'accord
sauf,
avec moi. Parce que
sauf avec
c'est
moi.
Alors,
mais c'est, oui, moi, je non, suis content.
Honnêtement,
je suis content que vous ne soyez pas d'accord avec moi.
Oui, voilà.
Parce qu'au moins, ne pas être d'accord avec le Front National, c'est être d'accord avec beaucoup de gens.
Vous nous promettez l'UMP et les socialistes. Qui êtes au pouvoir depuis 40 ans, vous nous promettez des lendemains qui chantent. Vous avez été au pouvoir 14 ans avec François Mitterrand, 5 ans avec Lionel Jospin. Vous croyez que ça a été terrible sur le plan social, sur le plan des travailleurs?
La CMU, c'est quand même une avancée, me semble-t-il, énorme. Vous l'avez oublié, peut-être. Ah non, mais vous savez pas ce que c'est. C'est vrai que...
Nous, on va la transformer en CMUF, c'est-à-dire la couverture médicale l'abolition des Français.
Eh bien, c'est honteux que vous osiez dire ça. Votre voiture est fabriquée par des travailleurs d'origine immigrée. Les routes, elles sont construites dans ce pays par des travailleurs d'origine immigrée. La moindre des reconnaissances est refusée.
Peut-être qu'on revienne au Parlement européen.
Moi, je voulais dire, excusez-moi, qu'il y a quand même un débat, là, j'espère qu'on aura quand même le temps de l'aborder, c'est quand même la crise écologique. Et donc, je pense que, justement, c'est l'échelon européen qui est le plus à même de résoudre cette crise. Parce que quand même, là, on a eu un débat, on a commencé un débat sur l'agriculture qui est maintenant dans le mur, il faut la reconvertir vers une agriculture de qualité qui nourrisse sans empoisonner. Hein, qui respecte.
Ça n'a jamais imposé personne, madame.
Ah, ben écoutez, il y a 30% des cancers maintenant qui sont d'origine alimentaire.
Vous avez beaucoup de preuves?
Ah, j'ai des preuves, oui. Vous avez vu le film Nos enfants nous accuseront. Vous avez vu comment les pesticides, etc., nous empoisonnent.
Cela étant, vous avez lancé le sujet. Vous avez lancé le sujet sur la crise écologique. C'est-à-dire, notamment, la production de carbone. Alors, qu'est-ce que le Parlement européen et qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, au Parlement européen, sur cette production de carbone? On a vu qu'il y a une législation française qui sort, parce qu'on se fixe des objectifs en fonction de Kyoto, de réduction de consommation. Est-ce que le Parlement européen peut épauler ça ou l'augmenter ou l'aider?
Je pense que, par exemple, on peut faire une politique de grands travaux au sujet des transports, parce que les transports, nous savons qu'ils sont responsables pour une grande partie de l'effet de serre, des gaz à effet de serre. Bon, donc, je crois que là aussi, c'est une politique qui peut se faire à l'échelle de l'Europe. Hein, par exemple, développer le rail. Bon, il faut également une politique énergétique à l'échelle européenne. Et là, ça peut aussi créer des millions d'emplois. La réponse à la crise écologique, celle faite au niveau européen, peut créer des millions d'emplois, et en particulier dans le domaine, justement, déjà, si on garde les petits paysans, c'est des emplois sauvés, mais également dans la reconversion écologique de l'industrie. Je pense à l'industrie automobile. Actuellement, justement, on voit avec General Motors ce qui se passe aux États-Unis et en France et dans les pays européens. Je crois que c'est une aberration de continuer à injecter des millions de dollars ou d'euros dans une industrie qui est obsolète, qui maintenant est obsolète. On ne va pas continuer à fabriquer des voitures comme avant, autant et aussi polluantes. Donc il faut absolument une reconversion écologique de ces usines. Et qui sait qui mieux que l'Europe peut organiser justement une nouvelle industrie qui ne soit pas, qui ne mette pas des millions d'ouvriers à la rue. Il faut penser un plan de reconversion de professionnalisée. Et ça, l'Europe sait le faire. Elle peut le faire beaucoup mieux que les États.
Voilà. Les États... Il faut conclure sur la question de l'urgence écologique et de la catastrophe écologique qui avance. Pour la liste du Front de Gauche, simplement une chose. Je pense qu'il n'est pas conséquent de penser pouvoir répondre à l'urgence écologique sans rompre avec les logiques qui sont à l'œuvre, qui sont celles de l'Union européenne, de la plupart des gouvernements, qui sont celles du libéralisme économique, de la course effrénée au profit, en essayant toujours de réduire les coûts sociaux, salariaux et les coûts environnementaux. On ne pourra passer d'une transition, aller vers un modèle de production, de consommation, d'échange respectueux des hommes, respectueux de la planète, respectueux des écosystèmes, qu'en rompant avec les logiques du profit, de la course effrénée à la réduction des coûts. Donc, refuser et mettre des ruptures avec l'Europe libérale du traité de Lisbonne. C'est le même enjeu. La question sociale, la question du libéralisme économique, la question environnementale, tout ça est un même enjeu et nous proposons de rompre avec.
Sauf que je voudrais dire, sauf
de Lisbonne,
attends, je crois qu'on a rien toujours.
Sauf que je voudrais dire,
heureusement, c'est pas l'ordre du jour.
Moi, je voulais simplement dire
pour le Parti Socialiste, on veut mettre en place une stratégie européenne de croissance écologique. On a évalué la création de 10 millions d'emplois sur l'Europe.
Public et privé dans l'année qui vient.
Est-ce que vous créez des richesses en même temps? Parce que pour sortir de la pauvreté, il faut créer des richesses.
Quels sont les propositions?
Il y a des millions d'emplois verts.
Notamment dans le bâtiment. Dans le bâtiment où on peut avoir un bâtiment basé sur l'énergie, c'est-à-dire des bâtiments qui rendent plus d'énergie. Et là, il y a de l'emploi à créer. Et l'Union européenne peut créer, peut aider à travers des financements, aider ces emplois-là.
Monsieur Pradier, non.
Nous,
Monsieur
simplement,
Pradier,
ce qu'on dit pour aider ça, il faut augmenter le budget de l'Europe. Encore. Le budget de l'Europe, aujourd'hui, il est basé sur 1% du PIB des États. Nous, on pense le mener à 2, voire 2,5%.
Augmenter les impôts, je suppose.
Mais pourquoi pas
changer? Moi aussi, je voudrais intervenir, puisque
la fiscalité européenne va venir.
Les impôts. Non, les impôts, c'est aussi l'emploi dans les services publics. C'est le maintien des services publics. C'est une fausse erreur de. C'est pas vrai, monsieur. C'est une erreur de dire qu'on maintiendra les services publics sans augmenter les impôts ou sans maintenir les impôts où ils sont. C'est une erreur. Et je crois, moi, qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire les choses. Et bon. Si on veut maintenir...
Vous m'obligez à ne donner qu'à l'UMP, j'aurais voulu donner à l'UMP au modem, non
si je crois qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est
voter. Je vais essayer d'être un peu plus court et on pourra partager.
Oui, très court, sur cette création d'emplois merveilleuse sur l'économie.
Moi, j'ai la conviction que s'il y a bien une compétence qui doit rester une compétence européenne, c'est cette compétence relevant de tout l'enjeu environnemental. Vous savez, depuis tout à l'heure, on s'interroge sur les limites de l'Europe, mais les limites de compétences, j'entends. Effectivement, l'Europe intervient dans des domaines où elle ne devrait pas intervenir. Sur la question environnementale, je pense qu'on peut tous être d'accord. Ce sont des enjeux qui nous dépassent, nous, État nation, et que nécessairement, nous avons besoin de nous unir dans l'Europe. Et je pense que c'est un immense défi et un des plus beaux défis pour nos générations à venir que l'Europe a relevé. Alors comment? J'y vois deux éléments. D'abord, des dispositions européennes. L'UMP, nous proposons d'avoir une unité d'achat de nos ressources énergétiques, et notamment au niveau du gaz, qui est un outil intéressant parce qu'il nous permet à la fois de mieux gérer et de mieux peser dans les négociations géopolitiques. Et ensuite, je pense aussi, comme vous le disiez à l'instant, que toutes les aides que l'Europe donne déjà au niveau local, par le FEDER, par d'autres fonds, pour développer nos investissements locaux, a une responsabilité importante. Quand on donne 600 000 euros pour financer une zone d'activité, je pense que celle-ci mérite d'être respectueuse de l'environnement. C'est une responsabilité locale.
Je ne sais pas si on a une rediffusion de prévu, mais on est tenu justement par ce genre d'horaire. Donc, je remercie l'UMP et Aurélien Pradier, le Parti Socialiste et Pierre Pantanella, Europe Écologie et Marie-Claude Carlin, le Mouvement Démocrate et Émilie Tessèdre-Julien, le Front de Gauche avec Guillaume Sériès, Libertas avec Marie-France de Pierrepont, le Front National avec Serge Larose, Lutte Ouvrière avec Sandra Teur-Mocha et NPA, le nouveau parti anticapitaliste avec Maxime Gaillac. C'était donc un tableau ovale exceptionnel à propos des élections européennes. On en tirera les conclusions des résultats dans 15 jours. Je vous remercie. C'était Claude Debezanne.